qui dit rentrée dit éducation, dit lycée, collège, école primaire, enfin voilà, université. Donc on est dans le ton. C'est le thème de la table ronde d'aujourd'hui. Donc on va commencer peut-être par écouter Sylvie Mercadal, si elle veut bien nous rejoindre, qui va nous présenter donc en tant que organisatrice, co-organisatrice des salons de Choiseul, que j'ai eu l'occasion de découvrir un peu par hasard, comme on découvre des choses dans toute la France il y a un ou deux ans. Et donc on lui a demandé de venir nous présenter cette manifestation qui, je crois, est assez unique en France. Voilà. Mais elle va nous le démontrer.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Bien. Bonjour, donc merci pour votre invitation. D'accord. Merci beaucoup pour cette invitation. Nous sommes deux à avoir organisé les salons de Choiseul. Mon collègue Stéphane Genet s'excuse, il a été retenu ailleurs. Donc je suis toute seule à vous présenter ce projet. Alors, les salons de Choiseul s'appellent comme cela puisque... Alors, il paraît que le site est en mémoire. C'est ça ? Et puis l'autre ? Ah ben nickel. Voilà, les salons de Choiseul s'appellent comme cela parce que je suis documentaliste au lycée Choiseul et que le lycée Choiseul, c'est un lycée tout au nord de Tours, dans une zone un petit peu sans âme et sans identification. La preuve, hein, la mairie a décidé d'appeler cette zone le pôle nord. Donc on se sentait un petit peu seul. On est malgré tout le deuxième lycée d'Indre-et-Loire en termes d'effectifs. Et chaque fois qu'on dit « moi je travaille au lycée Choiseul », personne ne connaît, même des gens qui sont nés à Tours, qui ont leur famille, qui sont à Tours depuis des générations. Il y avait un manque absolu d'image, ni en positif, ni en négatif. Il y a des lycées à Tours hein, qui ont des images négatives, mais ils ont une image. Nous, on n'avait même pas ça. Donc avec un collègue, on faisait chacun de notre côté des opérations culturelles en parallèle de notre fonction ordinaire. Et un jour, on s'est dit, il faut que ça change. Ici, il y a des élèves de qualité, des enseignants de qualité, un espace immense. Ben oui, c'est immense, on est au bout du monde. Et il faut taper du poing sur la table, il faut se faire connaître. Et donc, on a fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire faire venir des gens sur des thématiques, préparer les choses en amont, en aval, et communiquer là-dessus. Donc, au début, on pensait qu'on allait faire venir 3-4 personnes, et rapidement, ça a pris des proportions énormes. Là, actuellement, c'est la cinquième année, et sur deux jours, nous faisons venir 50 à 60 intervenants. C'est ouvert au public et l'année dernière, nous avons donc offert 8000 places de conférence sur deux jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur, par exemple, de 9h30 à 10h30, nous avons 1000 places de conférence par des universitaires qui viennent de la Sorbonne, du Collège de France, etc. Dans le nord de Tours, en novembre, eh bien, nous les remplissons. C'est-à-dire on fait venir 1000 personnes qui sont d'accord pour se lever le matin dans le gel et la froidure pour venir assister à une conférence universitaire. Donc c'est en ce sens que c'est unique et Dieu sait si on nous avait dit que ça ne marcherait pas. Et pourtant ça marche. Alors qui sont les gens qui se déplacent pour venir ? Alors nos élèves, en priorité, nous réservons la moitié des places à nos élèves, à nos enseignants, aux agents, aux administratifs du lycée. Je vous ai dit, il y a du monde, il y a de quoi déjà remplir à peu près, en fait, en réalité, un tiers des places. Et puis ensuite, nous faisons une deuxième ouverture au grand public par une billetterie sur le site. Alors, je vais vous montrer le site. Alors, on n'est que deux à préparer les salons de Choiseul, donc le site, ça passe un petit peu... À la trappe, c'est la raison pour laquelle il est vraiment très minimaliste. On aimerait hein, qu'il soit beaucoup mieux, mais il est très minimaliste. Alors, voici l'affiche de ce qui va se passer le 16 et le 17 novembre dans l'établissement. Vous voyez Choiseul, on utilise toujours Choiseul et on le met en scène en fonction des thématiques de chaque année. Cette année, c'est mythes et héros. Donc évidemment, Choiseul, on l'a mise en scène un petit peu à la Obama avec les couleurs de la fiche de la campagne électorale d'Obama. Et puis en Superman, mais le S, en fait, c'est le S des salons. Et chaque année, on essaie d'avoir des petits gimmicks comme ça dans l'affiche pour pouvoir amuser et être créatif également dans la création. Donc vous voyez, 52 conférences, rencontres, entrées gratuites. Donc je disais, les places sont réservées par billetterie, comme pour un concert, hein, mais c'est gratuit. Mais les gens, il faut qu'ils viennent avec un billet, parce qu'on est dans un établissement scolaire, on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui attendent, qui n'ont pas de place dans les conférences. Donc on sait déjà qui va venir et quand. Alors on n'en est pas encore à contrôler nominativement, mais les personnes ne peuvent rentrer que s'ils ont une place. Et évidemment, ça durcit d'année en année. Alors qui sont les personnes qui viennent au salon? Ben déjà les gens qu'on invite. Et là, c'est pareil, on a été très très étonnés de voir à quel point, dans le milieu universitaire, mais pas seulement, les gens étaient émus qu'un établissement scolaire les contacte, même des gens assez célèbres ou qui sont très très demandés. Le fait de devoir parler face à des lycéens et un public varié entraîne énormément d'adhésion de la part de gens qu'on pensait qu'ils pourraient être très très occupés. Alors on a des gens qui sont en général les plus pointus dans leur domaine. Ceux qui vont apporter une vision nouvelle dans un domaine donné. Et puis, nous essayons de mettre en valeur les professeurs du lycée. Beaucoup de professeurs écrivent des livres en catimini. Ils ont un petit peu honte, hein, de dire qu'ils écrivent des livres, qu'ils font des recherches, parce que dans les établissements scolaires comme ailleurs, il y a cette dictature des égaux. C'est-à-dire, toi, je t'aime bien si t'es égal à moi, mais si t'es un petit peu mieux, ça va moins bien. Donc on a eu du mal à les convaincre. Mais là, comme il y a 60 personnes, bah, du coup, on ne peut plus les critiquer. Il faudrait critiquer 60 personnes, c'est trop pour une seule personne. Donc de plus en plus d'enseignants acceptent de nous livrer leur jardin secret. Alors on a Nicolas Millet qui est agrégé de philosophie, donc lui, il nous fait Descartes, héros de la philosophie. Il fait aussi une déambulation philosophique. Alors l'année dernière, c'était mobilité, donc il avait fait une déambulation sur le banc. Ben oui, un philosophe, quand on lui parle de mobilité, il pense banc, il pense immobilité, c'est comme ça. Ensuite, on a qui Loïc Guilpin, notre professeur du lycée, qui lui est commissaire de course aux 24 heures du Mans. Il est prof de SVT, ça n'a rien, de physique chimie, ça n'a rien à voir, mais il est fan des 24 heures du Mans, donc il va nous faire une conférence sur les 24 heures du Mans. Je suis sûre que ça va être très bien. On va également avoir une exposition avec des objets des 24 heures du Mans. Ça va nous permettre au passage de récupérer des élèves certainement en carrosserie et en peinture mécanique. D'où notre volonté d'ouvrir. On va avoir également notre professeur d'histoire de l'art qui va nous faire une conférence sur les bleus de travail, un vêtement mythique, s'il en est. Un nouveau professeur, qui est professeur mais qui ressemble à un stagiaire, mais qui tout de suite en arrivant nous a dit « mais moi je veux faire quelque chose », il nous a proposé les anti-héros. Alors évidemment je l'ai fait parler, il parle très bien, donc je lui ai dit oui. Je vais y revenir pourquoi je fais ça. Ensuite, Laurent Triolet, qui est professeur de sciences naturelles et qui est un spécialiste mondial des tunnels. Bah oui, on a un spécialiste mondial des tunnels. Il explore des tunnels, il en découvre, etc. Et il voulait le dire à personne. Et donc, on lui dit, là, c'est bon, tu vas pouvoir expliquer tout ça. Il écrit des livres, etc., etc. Bon, alors, je ne vais pas faire tout. Et puis, on va aller chercher également des spécialistes. Alors, William Blanc, par exemple, est un grand spécialiste médiéviste et il le fait d'une manière extrêmement novatrice. C'est le grand pourfendeur de... mince, je ne me souviens plus le nom de cet historien, enfin, qui n'est pas historien, mais qui fait des livres d'histoire. Vous savez, sur le métro, les stations de métro, Laurent Deutsch, voilà, grand pourfendeur de Laurent Deutsch, et qui va nous faire une conférence sur le roi Arthur. Hein, évidemment, s'il y a un mythe qui intéresse... et les lycéens et les anciens lycéens, c'est le roi Arthur, un mythe contemporain des comics à Camelot. Donc l'intérêt de ce médiéviste, c'est qu'il dit, voilà, le roi Arthur, c'est vrai, il existe depuis très longtemps dans l'imaginaire, mais c'est le XXe siècle qu'il a ressorti de l'oubli, parce qu'avant, il n'existait que dans les milieux aristocratiques, c'est le roi Arthur. Mais le peuple avait d'autres mythes. Et c'est le XXe siècle qu'il a sorti, et donc il fait cette histoire de l'imaginaire arthurien au XXe siècle et au XXIe siècle. On a qui encore? On a un professeur au Collège de France, je ne l'ai plus, je ne sais plus où il est, mais faites-moi confiance. Et puis nous avons, pour vous montrer un petit peu tous les gens qui viennent, nous avons un YouTuber qui nous a été recommandé par un ancien élève, puisque les anciens élèves participent de manière sur la base du volontariat. Il s'agit de Nota Bene, Benjamin Brio, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui fait l'histoire d'une matière différente. Il est venu l'année dernière, ça a été extraordinaire. Il y a même quelqu'un qui est venu se faire dédicacer un bouclier en bois, habillé tout en peau de bête. Ça a été un grand moment. Et il a malgré tout un fond très intéressant. Il est en contact avec beaucoup d'historiens, il accepte le dialogue sur les détails de ses conférences, est-ce qu'il a bien abordé, etc. Et malgré tout, il a une abord très, 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 très à lui. Et là, il va venir nous faire une conférence sur les sources littéraires d'Harry Potter. Voilà. Et ça, je sais que les élèves sont très fans. Donc, le programme est en ligne, donc je ne vais pas continuer à l'infini. Maintenant, je vais vous parler de l'implication des élèves, bien sûr, parce qu'on est deux à organiser, et on tient à rester deux, tout simplement parce qu'on est plus efficace, on est plus réactif, on travaille jour et nuit, par mail, dès qu'on a une idée, on s'envoie, on revient. On a essayé d'être plus nombreux, et on a constaté que ça ne marchait plus. En revanche, on intègre énormément de gens dans un domaine donné. La plus grosse intégration, ce sont les BTS MUC. Je ne sais pas si vous connaissez cette appellation, c'est Management des Unités Commerciales, qui sont chez nos BTS parmi les moins scolaires, on va dire, ceux qui ont le plus de mal à rester assis des heures à entendre la parole d'un professeur. Or, vous voyez, nous, on organise des choses où la parole est reine, la parole de l'intervenant est reine. Et donc, on va les faire travailler sur l'accueil, sur la signalétique, et on travaille en amont dès le mois de septembre. Et on leur dit, voilà, vous allez être des commerciaux, vous allez vendre. Et là, vous n'allez pas vendre un objet, vous allez vendre l'image du lycée. Et quel est l'intérêt de vendre l'image d'un lycée? Eh bien, c'est parce que les professeurs nouveaux qui cherchent un poste, eh bien, ils vont avoir envie de venir chez nous. Ceux qui ont de l'énergie, ceux qui aiment leur métier vont avoir envie de venir chez nous. Et vous, lorsque vous allez chercher un stage ou du travail, les gens diront « Ah, lycée Choiseul, oui, je connais, il se passe des choses intéressantes. » Et votre diplôme, votre demande de stage va être beaucoup plus valorisée. Et en plus, c'est de la pré-professionnalisation, donc on leur dit qu'ils peuvent le mettre sur leur CV. Ils ont fait œuvre de professionnel dans cet événementiel-là. Voilà. Et ça se passe toujours très bien. Il y a même des élèves que on a l'impression que c'est vraiment le jour de leur vie. C'est l'événement de leur vie. Ils font également la police hein, dans les salles, parce que 180 personnes dans une salle, c'est important. Et tous ceux qui sont enseignants ici le savent, c'est-à-dire un élève qui pose problème quand on leur dit de faire la discipline, il est pire que les autres. Voilà, ils sont très efficaces. Alors, qui intervient également? Les élèves de préparation Sciences Po préparent une petite intervention et présentent les intervenants. Donc, ça leur fait vraiment une préparation à l'oral très intéressante. Parler devant 180 personnes quand on a 16-17 ans, c'est très difficile. Et puis, on a tous les élèves qui s'inscrivent. Chacun a un quota de 3 conférences qui priment sur leur cours. Et ils s'inscrivent un petit peu, alors on les voit avec la petite plaquette, je ne l'ai pas, hein, elle va être imprimée la semaine prochaine, un petit peu comme au restaurant, avec un air très gourmand. Et là aussi, on nous a dit, ça ne marchera pas, les élèves ne voudront pas assister à ce genre de conférence. Or, toutes les sections confondues, y compris celles où on penserait que non, ça ne les intéresse pas, toutes les sections confondues s'inscrivent en masse, à tel point qu'on a dû instaurer un quota et discours de tout ça. Il y a même un marché noir des places. Donc, d'où l'intérêt de la chose. Et puis, les grands-parents viennent. Les parents, s'ils ne travaillent pas pendant ces horaires-là, viennent. Et pour quand même faire venir les parents, puisqu'ils sont beaucoup travaillent, on a une conférence inaugurale le soir à la mairie de Tours. Donc là, on a effectivement des gens en âge de travailler. Je n'ai pas tout abordé, bien évidemment. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, parce que je sais que beaucoup d'autres personnes doivent parler. Si, si. Mais je laisse la parole.
On a le temps pour les questions. Il peut y avoir des questions. Donc, qui veut poser une question, une demande de précision? Simplement, peut-être préciser les dates des prochaines et si certains d'entre vous veulent y participer, c'est l'occasion.
Alors, les dates, c'est toujours au milieu du mois de novembre chaque année. Cette année, c'est le 16 et le 17 novembre, donc le jeudi et le vendredi du milieu du mois de novembre. Les conférences ont lieu de 9h30 jusqu'à 16h30. Il faut s'inscrire en ligne, c'est gratuit. Et vous voyez, je vous en ai montré quelques-unes. Il y a de quoi vraiment satisfaire tous les goûts.
Et alors, vous vous présentez puisqu'on enregistre.
Éric Meunier, directeur de l'école de deuxième chance. Est-ce que c'est ouvert au public non lycéen ? Je pense à mes collègues de l'école de deuxième chance de Tours.
Alors, c'est ouvert à tout public, au public non lycéen scolaire, c'est-à-dire d'autres élèves que le lycée, et au public non lycéen non scolaire. Nous avons, alors évidemment, énormément de retraités puisque c'est en journée. Nous avons également beaucoup d'étudiants. Et puis, nous avons beaucoup d'enseignants qui utilisent les salons comme formation continue, finalement.
D'autres questions ? Sinon, écoutez, vous restez à la tribune et de toute façon, on pourra poursuivre l'échange avec vous. Et donc, je vais appeler la deuxième personne. C'est monsieur Christophe Labrousse, donc, qui nous vient des Deux-Sèvres, Saint-Léger de la Martinière, qui est fondateur et directeur du collège Dominique Savio. Et qui va nous parler, lui, de l'éducation, de l'enseignement, et peut-être de son rôle avec la créativité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Lorsque j'ai lu l'intitulé de l'après-midi, création, créativité et territoire, ce sujet m'a parlé tout de suite dans la mesure où voilà, j'étais professeur dans l'éducation nationale, professeur de lettres à Royan. Je suis royanais d'origine. Ma classe donnait sur l'océan Atlantique, donc tout était très bien. En plus, à 150 mètres de la plage, donc c'était formidable. Et puis, on me confie mon premier vrai poste de prof de français, on me confie une classe de 5e d'enfants en difficulté et je me suis mis à aider ces enfants. En plus, c'était mon premier poste. Je suis passionné d'éducation depuis que je suis en âge d'intellectualiser les choses. Et c'est vrai que ces enfants posaient des problèmes aux autres professeurs et avec moi, ça se passait bien. Alors c'est vrai que j'étais très impressionné au départ. Ils étaient 34, n'avaient pas bonne réputation. J'ai fait du théâtre, j'ai dit est-ce qu'il faut composer un personnage, quand on est prof on est toujours sur scène quelque part, regardé de tous, et j'ai dit non, je vais rester moi-même avec mes forces et mes faiblesses, puis voilà, ils sauront à qui ils ont affaire. Et puis c'est vrai qu'entre nous la mayonnaise a pris, elle a bien pris, et puis en conseil de classe le principal me demande de laisser tomber cette classe qui, je le cite, était la classe des déchets ou la classe poubelle. Donc pour moi, c'était compliqué d'entendre cela de la bouche d'un principal et de me dire, voilà, c'est mon premier poste, j'ai 25 ans et je vais subir cela tout le temps. Donc j'ai persévéré, je suis resté auprès de ces enfants, je suis convoqué à nouveau chez le principal qui me dit, écoutez, maintenant, vous vous mettez dans le moule éducation nationale où il faut pas rester. Donc cette histoire de moule, je suis quand même issu d'une famille... Les adultes ont raison, les enfants ont tort, ils se taisent. Donc j'étais très, très dans le moule, toujours dans le moule. Et c'est lors d'une conférence que j'ai donnée à Pointe-à-Pitre l'an dernier, je rencontre le recteur de Pointe-à-Pitre qui me dit « Monsieur, vous êtes un révolutionnaire de l'éducation. » Et le soir, en rentrant au gosier, je regardais la mer et je me suis dit « Bon sang, il me dit ça, moi qui ai toujours été dans le moule. » Eh bien, c'est vrai, avec le recul, je me dis en effet « Je suis un révolutionnaire de l'éducation. » Alors j'ai quitté l'éducation nationale, je suis parti à Paris, à la Sorbonne. J'ai suivi des cours et j'ai suivi des stages dans toutes les pédagogies qu'on pouvait proposer. Montessori, Freinet, Feuerstein, Jean Quiry, la Garanderie, Tomatis. Enfin vraiment, tout ce qu'il y avait sur le marché, si vous me permettez l'expression. Et à partir de là... Je me suis dit, voilà, si on pouvait créer une pédagogie qui pourrait correspondre à un type d'enfant, ce serait top. Parce qu'aujourd'hui, les pédagogues qui se disent, moi, avec ma méthode, je peux sauver tous les gamins, que nenni, excusez-moi, je vais faire un peu du médiéval. Non, on est pédagogue, on a des outils qui correspondent à tel type d'enfant, mais se dire, voilà, j'ai créé la méthode Freinet, ça va fonctionner pour tous les enfants, j'ai créé la méthode Montessori, ça va fonctionner pour tous les enfants, non, sûrement pas. Chacun a son histoire, chaque cas est unique. Et c'est notre unicité à tous dans cette salle qui fait notre charme. Donc, j'ai dit, c'est pas possible. On va créer une boîte à outils avec un maximum d'outils, justement, pour répondre à un maximum de gamins. Et on fera ce que l'on pourra. J'ai rencontré mon épouse donc, sur les bancs de la fac à Paris. Elle était du Mélois. Je me suis dit, c'est pas à Royan qu'on va pouvoir créer une école, parce que le milieu royanais, c'est un milieu friqué et de tourisme. Mon épouse étant du Mélois, donc sud de Sèvres, j'étais étudiant, ce que je disais tout à l'heure, il y a 30 ans, j'étais étudiant à Poitiers, j'habitais rue de la Cathédrale. Et j'avais une 4L à l'époque et je traversais le Mélois tous les lundis, je traversais tous les vendredis. Je ne me suis jamais arrêté, jamais, jamais, à Saint-Léger-de-la-Martinière où j'ai fondé mon école. Si on avait dit qu'un jour, je m'y arrêterais, j'y vivrais, j'y fonderais une famille, j'y fonderais une école et je viendrais maire de la commune, j'aurais dit, là, il y a un souci. Et puis, Apollon a fait que. J'ai rencontré mon épouse. Je lui ai fait part de mon projet. Elle était d'accord. Donc, je me suis installé sur le Mélois. Parce que je me suis dit, comme ça, si je souhaite accueillir des enfants d'un peu partout, la gare de Poitiers n'est pas loin, la gare de Niort non plus. Mais quand on crée une école, on n'a pas un copec en poche. C'est-à-dire que vous vous heurtez à l'administration. Pourquoi créer une école alors qu'il y a tout ce qu'il faut dans l'éducation nationale ? Non, je regrette. Eh bien, vous allez vous débrouiller tout seul. Donc, là, il faut rentrer en osmose avec le territoire. Travailler avec les forces vives du territoire. Et je ne connaissais personne, n'étant pas de Sévrien. Le premier maire que je rencontre... le maire de Saint-Léger-de-la-Martinière, je lui fais part de mon projet en lui disant, voilà, est-ce que vous auriez une ancienne école, des locaux à me louer ? Sachant que faut que je crée une association loi 1901 et que j'ouvre un compte à la banque. Donc il me dit oui, puis il croyait, je pense, ouais, plus en mon projet que moi à l'époque. Donc il m'emmène en pleine campagne. On ne fait pas mieux, on ne fait pas pire, c'est comme on veut. Mes premières voisines sont des vaches. C'est... la première fois que je suis venu, la première fois que j'ai dormi, je regardais par la fenêtre, c'était une nuit de pleine lune, et je me suis dit, bon sang, l'Atlantique, il est où ? L'iode, je sens plus rien. Et mes voisines sont des vaches, c'est plus les huîtres, c'est plus les touristes, il va falloir s'adapter à ce territoire. Et puis le Mélois, c'est quand même une histoire, c'est quand même un ancrage, depuis l'époque du Moyen-Âge, depuis le médiéval, aujourd'hui, Mel est réputé pour son patrimoine, son architecture, ses églises romanes, les mines des rois francs, enfin vraiment l'hôtel du Ménoc. Une terre vraiment riche, avec un savoir-faire très très intéressant. Et moi, Royanais, alors là je peux vous dire que les littoraux, on n'est pas franchement attaché à l'histoire de notre patrimoine. D'ailleurs, il n'y a pas trop de patrimoine non plus. Et puis, on attend plus les touristes qu'autre chose. Donc là, j'ai fait connaissance d'une terre difficile, d'un public compliqué, mais d'un public exigeant, et il fallait répondre sur le territoire à ces exigences. Donc, je vais au Crédit Agricole, j'ouvre un compte à l'époque avec 200 francs, donc 30 euros, et l'aventure commence. Inutile de vous dire que j'ai eu tous les bâtons dans les roues que je pouvais imaginer ou ne pas imaginer. Tout y est passé. Il n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille, mais ça fait quand même 22 ans, d'être reconnus. Les EPI qui ont été mis au sein des nouveaux programmes il y a un an et demi, c'est moi qui les ai créés à Savio, parce que je dis toujours que ma petite école de 30 gamins, c'est un véritable laboratoire. Alors, je n'aime pas employer ce terme, mais c'est vraiment la société. Les enfants que j'accueille sont des enfants de milieux favorisés ou défavorisés, donc des enfants de tous milieux qui vont s'apporter et qui vont également nous apporter plein de choses. Moi, je suis un amoureux de l'éducation, un amoureux de la machine humaine, j'essaie de comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionne la famille, comment fonctionnent les enfants aujourd'hui. Et à partir de là, j'ai créé une pédagogie, la pédagogie saviotine, puisque l'école s'appelle Savio, Dominique Savio, parce que c'est vraiment une pédagogie aujourd'hui qui s'adapte aux enfants. Aujourd'hui, l'éducation va droit dans le mur. On va droit dans le mur parce que nous sommes dans une société en telle mutation qui va tellement, tellement, tellement vite que l'éducation n'est pas capable de répondre aussi rapidement et je dirais avec une longueur d'avance à cette société en mutation. Du coup, on demande aux enfants de s'adapter à l'école. Et là, on a tout faux. C'est à l'école de s'adapter aux enfants, au profil des familles, au nouveau profil des familles. J'insiste lourdement parce que avant nous avions la famille, le père, la mère, point. Ensuite, il y a eu la famille de parents séparés, divorcés, ok. Est arrivée la famille monoparentale, la famille homoparentale, et on oublie tout simplement de parler de toutes les familles d'accueil, de toutes ces familles qui accueillent des enfants qui sont à l'ASE. On a donc 5 nouveaux modèles. Donc, des enfants qui vont avoir un vécu complètement différent, avec des origines plus ou moins lourdes, parfois très très lourdes. Donc il faut que, en mettant en place une pédagogie adaptée, nous puissions répondre au maximum et le plus rapidement possible à ces enfants. Parce que moi, l'objectif, il n'est pas qu'ils fassent carrière chez moi. Je les accueille à partir du primaire maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de petits, alors qu'avant, je n'avais que des collégiens et entre autres des quatrièmes et des troisièmes. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'enfants petits qui nous arrivent parce que parents démunis. Alors, je vous parlerai de l'école des parents que je viens de créer. Mais pour en revenir à cette école, je dis toujours, les enfants ne sont pas là pour faire carrière. Une année peut suffire. C'est une école tremplin. Si les enfants ont décidé d'être de véritables éponges, et de nous faire confiance, je dirais, la partie, entre guillemets, est gagnée. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va leur donner, en fonction de leur rythme, en fonction de leur personnalité, les outils qui feront qu'ils vont pouvoir y arriver rapidement. Alors, qui est auditif? Quel genre d'exercice ou quel langage va-t-on tenir? Quels mots allons-nous employer à des auditifs? Comment vont-ils devoir apprendre une leçon à voix haute? Alors là, je me suis servi de la méthode Tomatis avec l'osselet que nous avons dans la main droite, pas dans la gauche, et on apprend comme ça à voix haute. L'osselet qui est ici fait office de micro, et je fais toujours apprendre des leçons d'histoire ou de géographie à mes enfants, à mes élèves, en rap. Parce que le rythme du rap, saccadé, cadencé, permet au cerveau de conserver en mémoire ce que les enfants sont en train d'apprendre. Ça, ce sont des trucs éducatifs. Et tous ces trucs éducatifs, toutes ces recettes éducatives, je les partage dans le livre que je viens de finir d'écrire et qui sortira à Noël aux éditions du Panthéon, « Donner du sens à l'école de demain ». C'est-à-dire que je fais le constat de mes 20 années à Savio, de l'évolution des enfants, donc de la société, sans comparer ce qu'étaient les enfants il y a 20 ans. On ne peut pas comparer ce qui n'est plus comparable. Quand j'entends des gens me dire de mon temps, mais oui, c'était de votre temps, très bien. Il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, il n'y avait pas l'histoire que les enfants connaissent aujourd'hui. Donc on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. C'est trop facile de dire, de mon temps, quelque part, ça vous déculpabilise. Il n'est pas là, on n'est pas là pour vous culpabiliser, mais on ne compare pas. Et on fait aujourd'hui avec les outils que nous recevons. Alors évidemment, avec des enfants en difficulté, il faut être bienveillant. Mais je pense quand même, au sein de l'éducation nationale, et pour avoir beaucoup d'amis qui travaillent dans l'éducation nationale, que la majorité des profs sont bienveillants. Sinon, c'est vrai, il faut vraiment changer de métier parce qu'on commet vraiment des dégâts. Donc, si les enfants ont confiance, en un an, ils sont sortis d'affaires, ils peuvent réintégrer le cursus éducation nationale. On m'a proposé les PAMS académiques, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je souhaite, c'est d'être reconnu école expérimentale, ou voilà. J'ai rencontré 3 ministres, ils sont bien gentils, ils sont bien mignons. Je leur ai dit, je ne vais pas venir à Paris vous voir tous les 3 ans parce que vous êtes nouveau et que vous êtes tous au courant de mon histoire. Vous m'écrivez, je vous écris, je vous donne le fruit de mes recherches. Après, c'est bon, quoi. Où vous voulez, très bien. Si vous ne voulez pas, tant pis, on continuera. Ça fait 22 ans qu'on travaille comme ça, on continuera. Mais l'âge avançant, on est moins patient et on se fatigue plus vite, je dirais. Alors, le milieu rural, c'est un milieu protégé pour ces enfants qui peuvent être soumis à des tentations. Il y a une qualité environnementale et la plus grande qualité de l'être humain, c'est l'observation, c'est l'écoute. Quoi de mieux que d'observer la nature, que d'observer ce qui nous environne? Et pour ces enfants qui sont en difficulté, il est important de se retrouver en pleine campagne et de vivre, je dirais, au rythme de la campagne sans stress. Le territoire, c'est, alors en ce qui me concerne pour le Mélois, c'est vraiment une terre de savoir-faire, un amour du terroir. C'est un territoire très riche et très varié, je vous le disais, du point de vue du patrimoine, au niveau agricole aussi. Alors, les interactions avec le territoire mélois. Alors, moi, en tant que directeur d'école, pas en tant que maire, parce que moi, je suis arrivé en tant que maire, c'était un accident. Le dernier inscrit sur une liste pour dire votre liste sera complète, machin, si vous voulez vous présenter. Je n'arrêtais pas de dire. Je ne suis même pas allé aux réunions préparatoires, juste à la dernière. Et je disais à mon épouse, ils vont tous passer. Alors moi, je vais être à la remorque. Enfin, c'est vraiment la honte. Enfin, tant pis, maintenant, je me suis engagé. Je suis un gars d'engagement, on y va. Bonjour, résultat des courses. Le soir du premier tour, j'avais le plus de voix. Il y a eu un second tour et j'ai été élu maire de Saint-Léger sans rien y connaître. Je dis bien, je suis l'exemple vivant qu'à 40 ans, on peut continuer d'apprendre. J'ai suivi des cours par l'Association des maires de France pour justement apprendre ce qu'était ce métier, entre guillemets, de maire. Et puis du coup, j'ai re-signé en 2014. Bon, alors, quand on crée une école comme la mienne, il faut absolument coller avec son territoire, savoir se servir de son territoire pour que cela profite aux enfants. Alors, tout d'abord, on avait une radio locale, nous avons toujours une radio locale, Radio D4B. Un jour, je vais enregistrer un magazine pour annoncer une fête d'école, et puis on me propose d'animer une émission. Et ça fait 4 ans que j'anime tous les mardis après-midi, de 14h à 15h, donc c'est quand même une heure toutes les semaines, l'éducation et vous. Donc, une émission sur les enfants, sur l'évolution des pédagogies, sur l'éducation. Et à partir de là, des personnes que je ne connais pas me téléphonent, viennent me voir. Alors, je joue le coach parental en allant chez ces personnes, voire en observant, je suis un peu une super nanny bis, si vous voulez. Et puis, comme je ne les connais pas, je leur donne des clés, puis je leur dis on se voit aux prochaines vacances par exemple pour faire le point, voir si ça a évolué ou pas. Donc c'est une émission qui marche vraiment vraiment bien, et maintenant les gens m'envoient les sujets qu'ils souhaitent que nous travaillions. Là on va travailler sur tous les 10, parce que c'est très à la mode aujourd'hui, mon enfant est dyspraxique, dyscalculique, il est 10, comme je dis, il dysfonctionne complètement. Alors moi déjà, un gamin à qui on dit tu es 10, ça pèse lourd. 10, ça plombe. Alors moi, j'aime bien les appeler des 2 fois 5. Vous allez me dire, il joue sur les mots, mais une multiplication, ça prend de l'envolée. Ah, je dis, ouais, toi, t'es un 2 fois 5. Ben non, je suis un 10. Ben oui, on est d'accord. Ben non, ben si, 2 fois 5, 10. Ah, voilà. Et il faut, keep quiet les enfants, alléger les enfants. Ils portent beaucoup, beaucoup trop lourd aujourd'hui. Alors, il y a cette émission sur D4B. Les enfants qu'ils souhaitent, je leur accorde 10 minutes, un quart d'heure d'émission, où ils vont parler de sport, de musique, de passion, et au préalable, ils me préparent une rédaction par rapport à ce dont ils vont parler. Je les fais travailler à l'oral, c'est ludique, tout en étant important, et on construit avec eux. Et je me sers vraiment de la radio des 4B pour faire passer des messages. Après, sur Saint-Léger, il y a un club de BMX, donc les enfants ont une heure et demie de BMX au sein de ce club tous les mardis après-midi, les enfants qui sont en collège. La fête de l'école permet d'inviter tous les gens de la commune, les gens du village, ils sont très contents, on a nos petits papis, nos petites mamies qui nous suivent depuis 22 ans. Nous avons fêté il y a un an et demi les 20 ans de l'école, alors on a fait ça en grande pompe, et puis en plus je dirais tous les politiques ont répondu, de droite comme de gauche, qu'ils soient sénateurs, députés, conseillers régionaux, président du conseil départemental, président de la société des maires, tout le monde est venu. Voilà, c'est bien. C'est pas pour autant qu'il y ait eu des suites, j'aurais pu, mais c'est pas grave. Il y a de la reconnaissance et c'est important. En plus, le territoire mélois est vraiment en adéquation avec les programmes scolaires d'aujourd'hui, parce que on n'a pas besoin de prendre un bus et de faire 120 km. On a tout à portée de main, d'un point de vue géographique, historique, aquatique, tout ce qui est sportif. On a vraiment, dans le sud des Deux-Sèvres, tout à portée de main. Donc, il y a vraiment, et j'insiste pour répondre au sujet d'aujourd'hui, cette interaction, cette communion entre le territoire et l'école. Et ça, il faut le vouloir. Créer une école atypique dans un territoire rural très, très reculé, c'est pas facile. Il faut se battre. Quand on croit en quelque chose, on se bat et on y arrive. Alors, c'est vrai qu'on a, on a quand même la chance d'être dans le Mélois, d'avoir ce programme scolaire, je dirais, au quotidien autour de nous. C'est le musée de Roranum, le musée de Ron, avec lequel on travaille en archéologie. Les enfants ont préparé une exposition éphémère sur la médecine et l'hygiène du corps chez les Romains. Donc, exposition éphémère qui est exposée jusqu'au mois de janvier prochain au musée de Roranum, et après qui va se promener dans les collèges de la nouvelle Grande Aquitaine. Je travaille également avec l'Union départementale des foyers ruraux. Je fais intervenir soit des écrivains, soit des comédiens, et les enfants ont une activité théâtre à Savio. Rien de tel que le théâtre, rien de tel que le chant, rien de tel que le sport pour permettre de se comprendre. Il y a le côté scolaire, un tiers. Il y a le côté sportif, un tiers. Il y a le volet culturel, le troisième tiers. Je ne suis pas Socrate, je me suis servi de ce que Socrate avait mis en place, mais je peux vous dire que ça fait des jeunes bien équilibrés. Et je dis, le premier bouquin que j'ai écrit, qui n'est plus édité aujourd'hui, il s'appelait « La porte des talents ». À l'école, nous devons être les révélateurs de ces talents si les enfants ne les soupçonnent pas en eux. Voilà, ça c'est important. Après, faire vivre. Alors, je fais intervenir également le SDIS pour les gestes de premier secours, l'armée, l'ENSOA pour les addictions, France Adot pour expliquer ce que c'est que donner des organes une fois que nous sommes décédés. Je fais vraiment, vraiment venir toutes les forces vives du territoire. Comme c'est en adéquation avec le programme, c'est l'école de l'ADN. Le manger, là, votre affiche là, sur la nutrition, là. Ça y est, nous sommes inscrits, les enfants donc, vont y participer. Et puis, il faut faire vivre le territoire, et j'en terminerai par là, à travers des initiatives. J'ai créé officiellement le 16 septembre, donc c'est tout frais, une école de parents. Alors, ce n'est pas pour dire aux parents, vous venez à l'école toute la semaine, comme vos enfants. On écrit partout, dans la presse, dans différents quotidiens, être parent, c'est un métier. Ok, super. Vous me donnez l'adresse de l'école. Quel diplôme doit-on passer? Et à quel âge part-on à la retraite? C'est trop facile, là encore. On fait un effet d'annonce, être parent, c'est un métier. Comme ça, ça déculpabilise les parents aujourd'hui qui baissent trop souvent les bras. Ah ben oui, je ne sais pas faire. Ok, d'accord. Non, ça ne marche pas. Alors moi, au sein de Savio, de mon école, en 2003, j'avais créé une école des parents, mais interne à l'école. Je faisais venir des thérapeutes extérieurs. On travaillait un week-end par trimestre, le samedi, sur des thématiques très précises, le dimanche matin et le dimanche après-midi, un thérapeute venait. Et puis, au vu des retours de l'émission sur D4B, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une école des parents à l'échelle du département, et le cercle, ça s'intitule le cercle des parents pas carrés. Voilà, ce sont les parents qui ont décidé de s'appeler comme cela. Le cercle des parents pas carrés, c'est-à-dire que ils ont décidé de, à travers leurs problématiques, de trouver les éléments de réponse. Du coup, c'est officiel depuis le 16 septembre, donc c'est tout frais. Et puis un article était paru sur la Nouvelle République, et une secrétaire de l'École des parents et des éducateurs de Paris a eu l'article entre les mains. elle m'a contacté, elle est venue visiter mon école, elle est venue me rencontrer à 3 reprises. Et là, je viens de remplir un dossier pour que cette création d'école des parents soit reconnue école des parents et des éducateurs et soit la 41e à l'échelon national. Du coup, ce serait la première reconnue dans les Deux-Sèvres. Donc, ce serait bien. Et puis, j'organise une semaine de l'éducation, une journée pour les profs, une journée pour les parents, une journée pour les élèves. Et ces 3 journées sont ponctuées en soirée de thématiques, l'éducation et l'environnement, l'éducation et la culture, l'éducation et la musique. Et on fait se côtoyer des adultes et des jeunes. Voilà. Alors, pour moi, la relation en tant que créateur d'école et puis en tant que pédagogue, la création, la relation avec le territoire est fondamentale. En plus, si je mets l'étiquette de maire sur ma tête, ça prend tout son sens. Et à travers ces créations atypiques que sont une école, que sont une école des parents, eh bien, ça permet de mettre en exergue, de valoriser le territoire. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. J'aime bien votre mot créateur d'école, je retiens, dans le cadre de l'entrepreneuriat que nous essayons de soutenir et promouvoir. Est-ce qu'il y a des questions à Monsieur Labrousse ? Des demandes de précision ? Sinon, vous restez de toute façon à la tribune, on va continuer, et puis on va appeler le troisième, mais il y a peut-être entre-temps...
Il y a un site juste École Savio sur Internet, le site de mon école où il y a toute l'actualité et tout, voilà, tout ce qui se fait, tout ce qu'on met en place, c'est mis sur le site.
Oui, allez-y.
C'est pas vraiment une question, mais je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez parlé des parents. Et vous avez dit ce que beaucoup de gens disent, les parents ont tendance à baisser les bras. Et moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'on est à une époque où les parents ne se sont jamais autant occupés de leurs enfants. Je ne comprends pas cette impression généralisée de les parents baissent les bras. Je ne dis pas que les parents réussissent toujours. D'abord, c'est difficile de savoir quand un parent réussit ou pas.
Tout à fait.
Intrinsèquement, c'est très, très difficile. Mais il me semble que les parents, globalement, alors on pourra toujours me donner des exemples, effectivement, de parents qui laissent leurs enfants à l'abandon. Mais globalement, il me semble que les parents sont de plus en plus investis.
Mais je pense que peut-être parce que vous êtes en ville et que Tours, ça a une dynamique. Franchement, vous habitez une belle ville.
Je ne connais pas que des Tourangeaux.
Et dynamique. Alors que, franchement, je peux vous dire que le sud de Sèvres est vraiment intellectuellement pauvre pour les parents qui sont complètement démunis. Mais franchement, et là, ils ont baissé les bras. Mais vraiment, alors pour moi, c'est vraiment parce que nous sommes dans un monde rural qui manque. Eh bien, justement, il n'y a pas de conférences, on ne sollicite pas les parents. Vous voyez, alors qu'en ville, bon, il y a tellement de choses qui sont mises en place pour les intéresser, pour les questionner. Nous n'avons pas ça, nous. Et c'est pour ça que. Moi, si vous voulez, dans le sud de Sèvres, à travers ces créations, mon objectif est de susciter l'envie, de susciter des réactions chez les parents. Alors peut-être que c'est vrai que ce que vous dites m'interroge parce que depuis le mois de juillet, j'ai de plus en plus de parents qui viennent me voir. Donc il y a peut-être une prise de conscience. Peut-être une prise de conscience maintenant. Ce serait bien. J'espère que... Parce que c'est vrai que c'est... Nous, vraiment, c'est intellectuellement très, très pauvre. Et puis, pour avoir été pendant 3 ans vice-président de la communauté de communes en charge du transfert scolaire, c'est-à-dire que les écoles ont quitté le giron des communes pour aller dans celui de la communauté de communes, ce qui est ultra compliqué pour un maire d'accepter que son école s'en aille, qui ne la possède plus quelque part. Eh bien, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents, beaucoup de populations malheureusement défavorisées. Et là, ils ont complètement baissé les bras. Parce qu'on n'a pas su les intéresser. Et moi, je dirais, ce qui fait ça aujourd'hui, c'est que la technologie a tellement été rapide. Nos jeunes sont nés avec l'informatique, avec le numérique. Pour eux, ça leur parle. Moi, je ne suis pas né avec. J'ai dû apprendre et je ne sais pas grand-chose. Et c'est pour ça que je vous admire parce que chaque fois que je bâtis mes PowerPoint, il n'y a pas de souci. J'arrive avec ma clé USB, pas de souci. Je parle, toc, je fais une petite manip, tout est à
ça arrive à tout le
donc,
monde.
Donc, je dis stop. Et c'est vrai que quand mon ordinateur bug, par exemple, je demande à un de mes enfants ou à un de mes élèves, viens, venez voir, là, j'ai un souci. Bon. Oh, ben non, c'est pas grave, vous allez voir. Ok, c'est bon. Je vous ai fait comment ? Expliquez-moi. Ils sont incapables d'expliquer, parce que pour eux, c'est tellement
intuitif.
C'est intuitif, donc, voilà. Et nous, les parents, on s'est trouvés complètement dépassés par rapport à cette technologie. Et je dis toujours, il y a une trentaine d'années, quand nous, enfants ou ados, on avait une question à poser, on la posait à nos parents. Est-ce que, voilà, on avait besoin de points de repère ? Aujourd'hui, beaucoup de parents posent des questions aux enfants de par cette technologie. Et du coup, ils ont perdu leur rôle de parents. Ils deviendraient aujourd'hui les enfants de leurs enfants.
Alors ça, c'était déjà arrivé dans l'histoire, pendant la guerre de 14.
Oui, pendant la guerre de 14, oui.
Puisque les enfants savaient lire et pas les parents. Donc c'est la deuxième fois que ça arrive, cette chose-là.
Ok, merci. Peut-être aussi que le questionnement que vous posez recoupe une autre question qui sont les fractures territoriales. Je renvoie aux travaux de Christophe Guilly et autres avatars et qui se traduisent au niveau des élections, très concrètement, souvent. Voilà, oui. Vous vous présentez en même temps.
Je m'appelle Tommy, je suis animateur culturel indépendant. C'est une question un peu pourrie, mais je voulais juste savoir comment s'écrivait Savio.
S-S-A-V-I-O.
Ok, merci.
Alors, je vais vous dire tout simplement pourquoi Savio. Je voulais l'appeler l'école du Carpe Diem, parce que j'ai une formation de latiniste. Cueille le jour, c'était vraiment pour expliquer aux enfants, sachez profiter de chaque instant qui passe. Voilà, c'était vraiment ça, n'allez pas dans la fuite. Bon, j'arrive avec mes statuts à la préfecture, alors... J'en parle avec beaucoup d'humour aujourd'hui. Il y a 22 ans, j'avais très très mal pris. La femme qui me reçoit lit les statuts. Oui, bon, ça va très bien, mais alors, votre école, là, c'est une école privée. Je la regarde, je dis, attendez, c'est pas une école confessionnelle. C'est pas... Oui, mais à la fin, elle est privée. Puis je dis, mais non, mais si, vous, c'est vous qui l'a fondée. Oui. Donc, il faudra que ce soit Saint quelque chose. Saint quelque chose. Bon, je sors de là. Je garde vos statuts, mais il faut changer d'appellation. J'achète un bouquin de vie de saint, puis je tourne, mais quel est le saint qui sera le moins saint ? S-I-N-T. Et puis je tombe sur Savio, petit bonhomme, turinois, machin et tout, et je dis Savio, S-A-V-I-O, cinq lettres, ça finit par une voyelle, on pourra jouer avec. Ce seront les saviotins, la pédagogie saviotine, on peut faire plein de choses avec ça. Et puis je dis, alors, sur les statuts, c'était Maison Saint-Dominique Savio, j'ai fait évoluer en école-collège Dominique Savio. Et c'est absolument pas confessionnel. Et quand quelqu'un commence à me lancer sur le sujet, j'y vais à fond. Et j'en parle dans mon livre, j'explique vraiment... voilà. Et Savio, du coup, et j'ai voulu changer d'appellation. Et puis après, revenir au Carpe Diem, on m'a dit non, parce que c'est vrai que j'allais avec mes élèves au Festival du film policier de Cognac. Et on était connus pour être les Saviotins. Et on avait des comédiens français qui venaient d'un année sur l'autre et qui reconnaissaient les élèves. Qui me connaissaient. J'ai eu plein de parrains ou marraines connus de l'école. Poivre d'Arvor, Anne Roumanoff, Annie Dupéré. Ils sont énumérés, Aznavour. Voilà, des gens qui, alors, ou que nous sommes allés voir à Paris avec un groupe, ou qui sont venus à Savio. C'est arrivé. Et c'est vrai qu'on a cette carte de visite, ce sont les Saviotins. Moi, je me rappelle toujours... Une comédienne, Charlotte de Turckheim, ça faisait 2-3 fois qu'on se voyait, et puis elle arrive, elle me reconnaît, elle dit « Ah, ben ça y est, les Saviotins sont là, on était au Festival de Cognac. Allez, vous êtes où, là, que je signe pour vous ?» Et je me suis dit, voilà, ce sont les Saviotins. Donc ça restera Savio.
Merci. Oui.
Je me représente, c'est ça ? Non, c'est bon. Et du coup, les enseignants, il y a des enseignants dans cette école ou c'est uniquement vous ?
Ah non, 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 nous sommes 8.
D'accord.
8 à travailler, en revanche, polyvalent. C'est-à-dire ont... si jamais il y avait quelqu'un de malade, que les autres puissent remplacer. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non, qui ont l'examen ou pas, qui vont se former sur le tas, parce qu'on peut avoir l'examen et ne pas être pédagogue. En revanche, les enfants que j'accueille, ils ne doivent être accueillis que par des pédagogues. Donc à partir de là... Quand je fais un entretien d'embauche ou d'essai, je dis à cette personne, bon, vous n'avez pas les diplômes requis. Mais ça, l'éducation nationale est au courant. Et à partir de là, ils vont suivre les formations et passer les diplômes.
Les concours ?
Et les concours aussi.
D'accord.
Oui, oui.
Ouais, ils sont là, okay.
Bien, merci. Je propose à monsieur Delorme, donc on reste dans les deux salles d'ailleurs, mais vous restez à la tribune, monsieur Labrousse, hein, donc qui est responsable de communication et coordinateur d'un festival d'événementiel que certains connaissent peut-être, mais justement vont apprendre à connaître un peu mieux. Allez-y.
Bonjour. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur un des sujets précis travaillés au sein du festival. Le festival est assez large, hein, avec 170 000 visiteurs estimés et 380 000 passants estimés. Je fais bien la distinction entre les visiteurs et les passants. Ça va à la fois du grand-père qui vient acheter sa baguette de pain, en passant vraiment par le visiteur qui est venu spécialement pour trouver quelque chose sur le festival, qui est lui-même gratuit. Au sein du festival, donc, qui est un festival des jeux international, on traite différentes thématiques, dont l'éducation. Cette thématique se traduit par un label qui a été développé avec un enseignant du nom d'Olivier Decroix, qui enseigne à Choret. Olivier a débarqué un jour dans nos locaux en nous disant « c'est extraordinaire ce que vous avez fait l'année dernière ». Donc ça, c'était en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Et donc en 2013, il faisait référence à une conférence que nous avions montée avec un neuroscientifique, un éditeur et un enseignant. Et cette conférence s'intitulait « Comment les jeux changent le monde ». Et à travers ça, différentes idées étaient ressorties, notamment celle que l'éducation avait encore beaucoup à apprendre ou à utiliser, en tout cas comme, avec le jeu, comme outil au sein des apprentissages. Et Olivier me faisait donc la référence à différents enseignants blogueurs qui, à travers leur blog, proposent déjà des outils à destination de l'ensemble des enseignants, notamment du niveau élémentaire. Et tous ces outils sont disponibles en ligne, sauf que l'éducation nationale ne les relaie pas, ou pas suffisamment. Et que justement, il était peut-être nécessaire d'ouvrir la brèche, de créer quelque chose de différent, et d'utiliser la notoriété du festival pour ouvrir un petit peu cette dimension ludique éducative, tout évidemment en travaillant encore nos professionnels du milieu ludique, pour ne pas les vexer, puisque tout jeu est éducatif bien évidemment, mais après tout dépend de ce que l'on recherche et de ce qu'on veut adapter. Donc j'aime beaucoup le côté recherche d'adapter la pédagogie à l'enfant. Là, c'est un peu la même chose, recherche du jeu à adapter en fonction de ce que l'on veut transmettre comme apprentissage, et non pas voir dans le jeu à chaque fois une vertu éducative. Donc de cette base-là, nous avons commencé à travailler, nous avons commencé à approcher les différents enseignants blogueurs qui reçoivent des millions de visites sur leur blog, et nous leur avons proposé d'intégrer un jury. Alors il y a d'abord eu une première conférence, avant même de créer les Educaflip, c'était en 2014, qui s'intitulait « Le jeu à la conquête de l'école ». Et de là, on a commencé à travailler vraiment cette thématique en profondeur et à lancer le label l'année suivante. Le label s'ouvrait avec un dossier d'inscription à destination de tout éditeur de jeux de société, et les jurés recevaient ces dossiers de façon anonyme, un peu sur la même base de travail que nous avions au sein du service sur les concours des créateurs. Et donc, ces jeux sont ensuite étudiés sur un certain nombre de critères, sur la base d'un certain nombre de critères, coûter moins de 50 euros, répondre à un développement d'apprentissage ou en tout cas de réalisation de compétences au niveau élémentaire et pas plus, se retrouver disponible dans un certain nombre de magasins, ou en tout cas au moins en ligne, à la vente en ligne sur Internet. Voilà, on a un certain nombre de critères comme ça qui étaient nécessaires et qui sont analysés directement par les jurés, qui sont tous, je le précise, hein, soit enseignants, soit directement liés de façon très proche, de par leur niveau professionnel, au milieu d'éducation, et tous blogueurs déjà reconnus, ayant un certain nombre d'outils à disposition. Donc ces enseignants nous ont permis d'identifier comme ça chaque année une dizaine de jeux qui avaient un certain nombre de développement de compétences et d'apprentissage. Et de cette dizaine de jeux, nous invitions un représentant de chaque maison d'édition à venir présenter de façon filmée au jury son jeu, tout en précisant comment ce jeu peut s'intégrer en classe et en quoi il a été travaillé, développé en ce sens. Et à l'issue de ces entretiens, qui généralement se passent sur une journée, où chaque entretien va durer une demi-heure, les membres du jury définissent les trois lauréats du label Educaflip. Donc Educa de éducation, éducatif, et Flip du Festival ludique international de Parthenay. Ce label, donc, lui, ensuite donne droit à un stop rayon qui est un logo apposé directement sur les boîtes lors des prochaines éditions. Et puis, il donne bien évidemment droit à la vidéo qui a été filmée, qui est ensuite transmise à travers les différents blogs, à travers la plateforme du Flip. Et on a vraiment constaté un effet intéressant. C'est-à-dire qu'on savait que sur le festival, nous avions beaucoup d'enseignants, de chercheurs, de ludothécaires, de passionnés de l'éducation qui venaient se renseigner, trouver des idées, trouver des jeux. Mais dès lors que le label a été lancé, les éditeurs qui étaient récompensés de ces labels, nominés ou lauréats, déjà d'être dans les 10 nominés, c'était pour une grande réussite, ce qui pour autant ne doit pas entacher l'ensemble des autres maisons d'édition qui produisent des jeux très très intéressants. Notamment d'ailleurs à Poitiers, nous avons Libellude, hein, la maison d'édition Libellude, qui produit de très 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 bons jeux, dont l'excellent Dixit, maintenant internationalement reconnu, carrément copié en Chine, pour donner la petite anecdote. Donc ces 10 nominés et du Caflip chaque année voient vraiment une progression dans leurs chiffres de vente. C'est-à-dire que d'un coup, on les met en lumière, enfin en tout cas des enseignants-chercheurs reconnus, blogueurs reconnus, les mettent en lumière et ça provoque chez eux une progression de leur chiffre d'affaires qui est assez impressionnant. Alors s'ils sont lauréats, c'est encore mieux. C'est-à-dire que l'un d'entre eux, l'année dernière, nous expliquait qu'avant, il réalisait entre 1 à 3 ventes par semaine. Depuis qu'il a gagné le label EduGaFlip, c'est environ 10 ventes par jour. Donc la progression est énorme pour lui et ça lui permet de faire connaître son jeu, d'envisager une réédition, puisque dans le milieu de l'édition, la trésorerie est bloquée tant que le jeu est produit. Donc on va produire par série de 2000, 3000, 5000 exemplaires. On va les placer dans des boutiques, on va les vendre en direct. Le risque, quand on se lance tout seul, c'est qu'évidemment ces jeux restent enfermés dans votre garage et puis finalement ne se vendent pas suffisamment, ne voient pas de réédition et finalement ne servent à rien, donc ce qui est vraiment dommage. C'est pour ça qu'on a tout ce milieu avec les éditeurs, les distributeurs, les boutiques. Je recommande vivement à ceux qui voudraient se lancer hein, de faire d'énormes tests auprès de la population dans différentes structures vraiment différentes, aller au contact du public recherché. Là, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les jeux qui gagnent un prix EduCaFlip, il faut savoir qu'ils ont été testés aussi dans des écoles ou dans des structures particulières et que c'est aussi ce qui a permis d'aiguiller parfois les membres du jury et de donner une plus-value à ce jeu. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un échantillon de ce que sont les EduCaFlip et de ce que ça a permis. Donc évidemment, ça apporte au Flip hein, une reconnaissance supplémentaire de sa capacité à identifier dans ce domaine-là des outils, de nouveaux outils. Et ça nous a donné l'envie d'aller plus loin, puisque maintenant nous sommes partis, en plus de cette thématique-là que nous relevons chaque année, sur une journée senior, donc le jeu comme approche par rapport aux seniors, notamment dans les EHPAD, où aujourd'hui on a de grosses difficultés, puisque manque de moyens, donc manque de disponibilité de personnel et donc un public accompagnant qui se retrouve complètement isolé avec la personne à accompagner en état de vieillissement et de perte d'autonomie et pas suffisamment de produits adaptés et pas suffisamment d'accompagnement. Voilà. Donc le jeu peut devenir là aussi un outil. Les neuroscientifiques s'y intéressent également, sauf qu'on aimerait ne pas tomber que dans le tout numérique et rester aussi dans l'appréhension, l'utilisation d'objets et adapter finalement le jeu existant qui est déjà très très bien on va dire pour nous, mais qui peut l'être pour l'enfant et qui finalement peut l'être aussi pour la personne âgée. Voilà, donc on essaye de traiter tous les aspects de la vie finalement à travers le jeu et j'ai une collègue qui a l'habitude de dire que senior ou enfant, on est au même niveau, on est au même stade, on a les mêmes problèmes, les mêmes besoins de développement ou les mêmes besoins de maintien. Voilà. Je vais juste vous montrer rapidement sur le site internet les EduCaFlip, très très rapidement. Le site n'est pas encore totalement responsive, il le deviendra avec le temps. Vous avez deux pages, deux parties de catégories dans le site internet. L'une d'entre elles se situe dans la vie du flip et l'autre dans les animations. Alors dans les animations, vous avez... Ah zut. Pas pratique. Dans les animations, vous avez les conférences dans lesquelles vous allez retrouver un certain nombre de conférences, dont celle que j'ai citée tout à l'heure. Donc le jeu comme outil à la conquête du monde et le jeu à la conquête de l'école. Vous allez aussi retrouver toutes les cérémonies de remise des prix EduCaFlip de ces dernières années, puisque jusqu'à cet été, la cérémonie EduCaFlip était suivie vraiment d'une intervention des membres du jury sur une thématique particulière. Donc évidemment, la toute première année, ça a été le jeu et apprentissage. La deuxième année, on a été plutôt sur le côté le jeu apprentissage, mais version jeu de lettres, jeu de mots. Et cette troisième année, on a choisi de splitter, d'éviter même ce côté conférence pour vraiment passer une partie test en direct avec les enseignants blogueurs et avec les intervenants des différentes maisons d'édition. Donc on est sorti vraiment de la partie cérémonie qui a été plus courte que les autres années. Et je pense qu'on va continuer sur ce modèle-là. Et on a participé comme ça à une grande soirée test qui a beaucoup, beaucoup plu. Donc dans les conférences, on a vraiment cette partie-là. Et après, donc dans la vie du Flip, vous avez un onglet qui s'intitule Éducation. Et voilà, éducation. Et donc vous allez retrouver dans éducation à la fois une présentation des différents Educaflip, de ce que c'est. Vous allez retrouver également les lauréats de l'année en cours, et puis vous allez retrouver des liens qui vont vous permettre de découvrir en vidéo les 10 nominés de chaque année, puisque tous les nominés, les 10, sont filmés. Et donc qu'ils soient lauréats ou non, ils ont droit à leur vidéo, qui est ensuite disponible sur le site gratuitement, de façon à augmenter cette ressourcerie en ligne, afin d'aiguiller les enseignants et n'importe quelle personne qui voudrait s'employer à utiliser le jeu comme outil de médiation dans sa classe ou auprès d'un public enfant au niveau élémentaire. C'est la place aux questions, du coup.
Oui, merci. Mais peut-être, pendant que des questions peut-être vont surgir, moi, juste deux thèmes sur lesquels j'aimerais que vous réagissiez, peut-être d'ailleurs collectivement. On a un peu évoqué ça au moment du repas. Je pensais au livre de Philippe Muret, L'Homo Festivus. Donc, est-ce qu'on est dans une société festive complète ? Et d'autre part, l'intelligence artificielle, au fond, puisqu'on s'est aperçu que le jeu de Go, normalement, on se disait que aucune intelligence artificielle ne dépasserait l'homme, et je crois que ça a été fait il n'y a pas tellement longtemps, peut-être un an. Donc comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces deux thèmes ?
Mais l'homo festibus, c'est vrai que nous sommes rendus dans une société où on cherche le loisir en permanence, et le loisir semble s'imposer comme un outil ou une façon d'occuper le temps permanent, mais finalement d'autres études tendent à montrer que l'humain a besoin aussi d'ennui pour développer sa créativité, pour développer son temps de réflexion, son temps d'imagination, que ce soit de la prime enfance à maintenant. Donc automatiquement on peut se poser la question légitimement si l'utilisation des écrans, l'utilisation du jeu en permanence est vraiment la meilleure solution. Donc le droit à la déconnexion finalement n'est plus seulement un droit mais presque un devoir pour garder sa créativité ou son libre arbitre en phase avec avec ce qu'on a envie de vivre dans cette société. Ça, c'est quelque chose effectivement qui se constate, et d'autant plus que le jeu à la base est aussi un échappatoire, c'est-à-dire que on rentre dans le jeu à niveau égal, peu importe l'époque dans laquelle on se situe. Si on prend la Grèce antique ou si on prend l'époque médiévale dont j'ai entendu parler tout à l'heure, il n'y a plus de question de savoir qui est noble, qui a le droit à tel ou tel statut lorsqu'on joue. On est tous au même niveau, on est tous face au même système de règles. Il n'y aura pas d'impartialité normalement. Mais voilà, donc c'est le fait de rentrer dans le jeu, c'est aussi se mettre en coupure par rapport à la vie de tous les jours et profiter d'un temps où on est beaucoup plus libre normalement. Alors si maintenant, demain, jouer, ça devient la vie, est-ce qu'on est complètement libre de faire ce qu'on veut en utilisant le jeu dans la rue de tous les jours ? Je fais jouer à Pac-Man Urbain pendant le temps du festival. Je précise toujours dans les règles du jeu qu'on doit faire attention aux automobiles, à traverser sur les passages cloutés, à ne pas courir devant la voiture. Mais je le redis dans les règles, parce qu'on pourrait l'oublier finalement. Alors si demain, si on transpose ça à une échelle de la vie de tous les jours, on aura vite fait d'oublier que certaines règles nous gardent en vie. Je sais pas. Du coup, je me dis que c'est pas forcément très bien non plus de jouer tout le temps. Il faut savoir s'accorder des temps de jeu, tout autant qu'il faut savoir rester dans la vie concrète et réelle avec pragmatisme. Après, sur l'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire le fait de s'intéresser au jeu de Go, qui est l'un des jeux les plus compliqués au monde à assimiler et à développer en termes de stratégie pour atteindre un certain niveau. Le fait que des IA soient maintenant capables de battre les meilleurs humains de la planète, on l'avait déjà vu dans le milieu des échecs, c'était jusqu'à il y a peu encore impossible au niveau du jeu de Go. Voilà, là, ça montre le pas de géant qui a été fait par les IA. Après, est-ce que le jeu demain a vocation à avoir plus d'IA encore ? Les professionnels du marketing sur les applications iPhone ou autres vous répondront que oui, voilà, parce que forcément plus on vous donnera la possibilité de jouer seul, plus vous jouerez, donc plus vous consommerez ce type de choses. Moi je pense qu'il faut rester au niveau du jeu à quelque chose de collectif, c'est-à-dire avoir des vrais humains avec lesquels jouer autour d'une table avec des objets réels. On peut faire un mix entre numérique et réel, on a vu des choses apparaître, je pense à World of Yo, qui est un jeu qui utilise le smartphone comme étant votre bateau pirate, mais n'empêche que vous jouez sur une vraie carte avec des vrais pions et vous jouez avec des vrais gens, voilà. Il n'y a pas d'IA qui est là. Donc ça me semble être quelque chose d'essentiel, le jeu se joue à plusieurs et à plusieurs humains.
Merci pour cette réaction comme ça, spontanée. tous les cas. Est-ce qu'il y a des questions à nos trois intervenants? Parce qu'on va peut-être regrouper les trois, puisqu'ensuite, on va prendre un autre cycle, si j'ose dire, même si c'est toujours le même thème, hein, bien sûr, je vous rassure. Oui.
Oui, David Jadot, lycée Perrochon à Parthenay. Étienne Delorme vient nous parler du jeu. Alors moi, je pose la question, dans l'école de Saviotine, quelle est la place du jeu?
Le jeu occupe, pardon. Tous les soirs, les enfants jouent. C'est important lors des veillées, parce que j'ai des internes. Donc, je suis content de vous rencontrer. Ma fille est chez vous, en STD2A, en terminale, Clémence. Voilà, c'est pour, et puis c'est pour ça que vous avez dit votre nom, d'accord. Donc le jeu a une place très très importante. Alors le soir, les enfants ont un temps libre entre le repas et le coucher. En revanche, j'aime bien que certains pratiquent l'ennui, parce que ça leur donne envie ensuite de créer, ou ça leur donne envie de jouer. Et sinon, d'autres jouent. Tous les soirs, il y a des jeux qui sont proposés. Ils ont une salle, les enfants, qui leur est... voilà, qui est destiné au jeu. Voilà. Ça peut être des jeux aussi PlayStation, enfin plus PlayStation, mais enfin, voilà. D'accord, numérique et tout, il y a tout ce qu'il faut. Mais je fais très attention parce que, bon, voilà.
D'autres questions? Bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est on va accueillir le quatrième et on... Vous restez avec nous, bien sûr, et vous pourrez intervenir à tout moment. C'est l'objet de la table ronde, hein, c'est que ça soit les échanges qui priment. Donc, je vais demander à Anne-Sophie Chotin, qui est éducatrice spécialisée en libéral. C'est assez rare, hein, les travailleurs sociaux libéraux en France. Il n'y en a pas tant que ça, donc elle va nous apporter son témoignage. En plus, on reste dans les Deux-Sèvres. Il y a presque un lobbying. Je ne sais pas si Céline y voit quelque chose dont je plaisante. Mais voilà, donc...
Bonjour à tous. Vous l'aurez remarqué, je suis très douée en informatique. Merci Céline. Donc moi je viens vous parler de ce qu'est un éducateur spécialisé et plus particulièrement de ce que je fais maintenant aussi en libéral. Peut-être vous faire un petit résumé bref quand même de ce qu'est globalement un éducateur spécialisé de manière ordinaire. C'est-à-dire que l'éducateur spécialisé, il intervient auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes qui peuvent présenter des handicaps physiques, mentaux, sensoriels. Des troubles du comportement ou bien encore des difficultés sociales ou d'insertion. Il travaille en équipe, beaucoup. Il travaille aussi en collaboration avec tous ceux qui participent à l'action sociale, l'action éducative, tout le personnel administratif, les assistants sociaux, les écoles. Voilà, un public assez large, bien sûr les familles en priorité aussi. Donc voilà pour ce petit éclairage sur les casquettes de l'éducateur spécialisé. Vous dire aussi, donc moi je suis éducatrice spécialisée dans un CESAD qui s'occupe d'enfants et d'adolescents qui présentent un handicap moteur sur Niort depuis un certain nombre d'années. Et puis depuis janvier exactement, j'ai développé cette activité dans le cadre du libéral pour plusieurs raisons. Je me trompe. Voilà. Donc j'ai appelé cette petite intervention un accompagnement différent. Pourquoi ? Parce que il m'a semblé qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas exploités, qui n'étaient pas proposés dans l'action sociale ordinaire. Il y avait des familles qui ne souhaitaient pas que leur enfant en situation de handicap ou autre fasse partie d'une institution spécialisée. Il y avait aussi des familles qui souhaitaient profondément, mais qui n'avaient pas de place. Voilà, il y a vraiment des profils assez larges de besoins pour les enfants, mais aussi, peut-être il était temps qu'on réfléchisse à ce qu'on pouvait proposer de différent. J'ai longuement aussi réfléchi autour de ce que proposait donc le rapport Pivetot de juin 2014, où ce ministre, en fait, accompagné de d'autres, a réfléchi sur le zéro sans solution. Alors, le zéro sans solution, l'idée première, c'était d'inventer des procédures innovantes, mieux travailler localement avec l'ensemble des partenaires pour que chaque enfant et chaque famille qui le nécessite puisse être accompagné autrement. Alors, le autrement, eh ben, maintenant, tout est à réfléchir. Et en effet, je pense qu'on a tout à penser encore, quoi. On a tout à construire pour le besoin de ces familles, pour le besoin de ces enfants qui ont vraiment des attentes particulières. Et l'action sociale, elle est en perpétuel mouvement. Donc voilà l'idée, en quelque sorte, de cette envie de m'installer en tant que libérale. Donc cet accompagnement, et il s'adresse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est à peu près le même public que ce que je fais sous l'autre casquette au service de soins. C'est des enfants et des adolescents, essentiellement, dans le cadre du libéral, qui viennent, alors soit des enfants lambda, c'est-à-dire des enfants qui questionnent leurs parents pour différentes raisons, des enfants en situation de handicap. Je suis de plus en plus sollicitée, mais là aussi dans le cadre du rapport Pivetot, notamment pour des enfants autistes, où il y a des besoins très, très forts. Et puis il y a aussi, il faut le dire, mais tant mieux, des enveloppes budgétaires assez nouvelles par rapport à ces besoins-là. Donc on est en train de monter des projets nouveaux avec les structures, notamment, qui vont permettre, en fait, de proposer des prestations autres que ce qui est déjà en place en institution, et en faisant appel à des libéraux. Donc accompagnement en situation de handicap, et puis alors assez large. Alors là, je tiens compte aussi de mon expérience de travail auprès des familles, auprès des fratries notamment, puisque dans le cadre du service de soins, avec un autre collègue, on avait mis en place des groupes de parole fratrie et parents, parce qu'eux aussi ont plein de choses à évoquer, à questionner, à déposer par rapport à l'enfant, cet enfant qui fait partie de leur famille et qui pose question. Donc comment je le mène, ce travail, dans le cadre du libéral? Eh bien, essentiellement autour d'entretiens, des entretiens avec les familles, des entretiens avec les enfants. Après, je reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure sur la forme de ces entretiens, mais il faut s'adapter à l'enfant. C'est notamment une des casquettes premières de l'éducateur spécialisé, il me semble, l'adaptation. Des ateliers pédagogiques en fonction des besoins de ces enfants-là. Monsieur Labrousse tout à l'heure parlait des enfants 10. Alors, effectivement, il y a toutes sortes de particularités, mais il y a aussi les enfants précoces, dont on parle peu, mais quand même plus qu'avant aussi. Et eux aussi ont une grosse particularité et sont en souffrance à l'école ordinaire. Donc, il faut penser des ateliers, des pédagogies un peu différentes. Voilà, donc après les échanges avec les parents et les besoins de ces enfants-là, tout est à construire sur quelle pédagogie on va pouvoir proposer et comment on va pouvoir aussi relayer avec notamment les écoles. Ça, je vais revenir tout à l'heure. Je peux intervenir aussi sur différents thèmes. Si à un moment donné, il me semble que je peux rassembler 2-3 familles ou 2-3 enfants qui vont avoir sensiblement les mêmes problématiques, eh bien là, peut-être il va être intéressant de penser à un regroupement autour d'un thème et puis réfléchir ensemble. Voilà, déposer, toujours dans l'idée de déposer les choses et de se questionner, d'avancer ensemble. Voilà, et les groupes de parole, donc j'en ai parlé aussi. Ce travail, alors en effet, il a lieu à mon bureau. Il a lieu aussi à domicile. Je me déplace aussi sur tous les lieux de vie de l'enfant. Alors, ça va être à la maison, parce qu'on a aussi une ouverture et un regard global sur ce que vit l'enfant, ce qu'il est et quelle place il prend au sein de la famille quand on va à domicile. Donc ça, c'est important. Et puis quand je note tous les lieux de vie de l'enfant, eh ben, bien sûr, on va retrouver le scolaire. Ça peut être aussi une crèche, un centre de loisirs autour d'une activité de loisirs. Voilà, c'est à partir du moment où on va devoir venir parler de cet enfant, où on le prend en charge et où on va chercher à l'inclure globalement. L'inclusion, eh ben, avant, ça veut dire qu'il faut parler longuement de qui on est et quels besoins on a pour exister. Donc il faut se déplacer et il faut aller parler avec les gens concrètement de ces besoins-là. Donc les différents champs d'intervention. Alors ils sont axés évidemment sur un accompagnement individualisé, et personnalisé. On va bien partir de la situation amenée par le parent, ou par les parents. Là aussi, quand je dis le parent, il y a aussi des parents qui sont seuls et qui ont crucialement besoin d'être soutenus. Et on va parler de cet enfant, on va cibler spécifiquement quels sont ses besoins et qu'est-ce qu'on va pouvoir réfléchir ensemble pour composer autour de ses besoins. Puisque même si on a deux enfants en situation de handicap moteur ou deux enfants précoces ou autres, ils ont chacun des particularités à travers ce même handicap. Donc on va vraiment axer sur un accompagnement spécifique et individualisé. Je propose aussi un soutien à la parentalité, parce que dans les entretiens, vraiment, ce qui ressort, c'est le besoin pour les parents de réfléchir sur c'est quoi être parent. C'est quoi être parent ? C'est loin d'être simple. C'est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire qu'on n'est pas le même parent à 20 ans, à 30 ans, à 40. On ne sera pas le même parent pour un enfant, pour son deuxième, pour son troisième. Donc tout ça est à aménager, à réaménager, à rediscuter. Voilà, c'est en perpétuelle évolution. Donc on parle beaucoup de cette notion de parentalité et de distribution des rôles de chacun, du père, de la mère. On a beaucoup de questionnements autour du rôle du père. Alors par ailleurs, moi, c'est un thème qui m'avait beaucoup plu parce que c'était l'objet de mon mémoire lorsque j'ai passé mon diplôme d'éducateur spécialisé. Mais cette question des pères, elle est très importante sous des angles très différents. Le père, quelquefois, il est présent physiquement, mais un peu absent, socialement, familialement, pour plein de raisons. Et il y a de grosses répercussions éducatives par rapport à l'enfant. Alors, quand ils arrivent à mon bureau, souvent, l'enfant est le symptôme. Notre enfant, il a tel besoin, il est comme ci, il est comme ça, ou justement, il n'est pas comme ci, ou il n'est pas comme ça. Et quand on discute ensemble, on se rend compte que finalement, il va falloir travailler sur une redistribution des rôles de chacun et de la place de chacun. Parce que finalement, on se rend compte que soit le papa, il est assez absent, soit la maman, elle est assez absente aussi. Attention, hein, j'ai pas dit que c'était que les pères qui étaient absents. Mais voilà, il va falloir vraiment redistribuer la place à chacun et comment on peut mener ce rôle-là en tant que parent. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, comme ils viennent, ils ne sont pas envoyés par les services sociaux, ils viennent par eux-mêmes, de leur propre initiative. Donc ils sont prêts. Ils sont prêts à mener un bout de chemin ensemble, à travailler un peu sur eux. Alors, je ne suis pas psychologue. On a eu, en effet, dans nos formations d'éducateurs spécialisés, on a fait beaucoup de sociaux et de psychos. En effet, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc je me suis formée aussi, j'ai beaucoup travaillé autour de cette question-là, mais je ne suis pas psychologue. Quand, à un moment donné, ça peut... le questionnement, la centration sur soi, cette sorte d'introspection, quand ça peut aller trop loin... Je vais orienter, voilà, je vais pouvoir parler de collègues psychologues que peut-être avec eux, ils vont pouvoir approfondir cette question-là. Ce que je veux dire, c'est que quand il me semble que je peux y répondre, et tout ça bien en lien avec les besoins de l'enfant et la structure familiale, les rôles parentaux, là, on va mener un travail ensemble. Donc j'ai eu quelques pères, notamment, qui... en amenant l'enfant pour leurs besoins spécifiques, finalement, se sont dit ben, on est prêt à faire un bout de chemin ensemble. Et puis je vais réfléchir un petit peu à cette casquette de père. Pourquoi j'ai des résistances, pourquoi j'ai des craintes, pourquoi j'arrive pas à apporter les repères éducatifs à mon enfant dont il a tant besoin. Voilà. Donc, je trouve ça assez chouette parce que finalement, dans le cadre du service de soins, j'ai l'impression que quelquefois, on travaille un petit peu moins avec les pairs. Et là, c'est pourquoi je faisais la différence tout à l'heure. Je pense que le fait d'avoir choisi cette forme de travail-là, choisi soit le libéral, où effectivement on est partie prenante, ou bien d'avoir accepté une proposition par le biais de la MDPH notamment, ou d'autres structures, où finalement on fait pour son enfant. Mais est-ce qu'on est bien partant pour tout monter ensemble, c'est-à-dire se mettre au travail, en gros, père, mère, autour de cet enfant? C'est une question à laquelle je réfléchis souvent. Je vois que c'est en train d'évoluer, en tous les cas. Un soutien à la scolarité. Alors oui, on travaille beaucoup au titre de l'inclusion scolaire. Je rappelle très souvent la loi de 2005 sur l'inclusion d'enfants en situation de handicap, notamment. Les enseignants, ils ont besoin aussi qu'on travaille ensemble. Parce qu'ils disent très souvent que finalement ils ne sont pas assez formés à l'accueil d'enfants en situation de handicap, à l'accueil d'enfants particuliers. Et ils ont besoin qu'on échange, qu'on rappelle de quoi cet enfant il a besoin, comment on va pouvoir l'accompagner au mieux. Alors il y a les enseignants et puis il y a aussi les AVS. Les AVS, alors par ailleurs, sous une autre casquette, je fais partie aussi des différents intervenants qui sont sollicités pour former les AVS. Et ça, je trouve que c'est très riche, parce que les AVS ont besoin aussi d'avoir cet espace où ils vont déposer un peu là, et réfléchir là aussi, se mettre au travail sur comment j'interviens au mieux auprès de cet enfant-là, quelle distance, quelle juste distance je dois prendre pour l'aider dans son travail. S'il y a des enseignants ici, vous devez savoir en effet de quoi ça parle, parce que c'est difficile ce positionnement de l'AVS auprès de l'enfant au quotidien. Donc, en tant qu'éduc, quand je vais sur l'école, on va avoir un moment d'échange régulier. Ça peut être toutes les 3 semaines, ça peut être mensuel, ça peut être plus s'il y a besoin, pour réfléchir sur le juste positionnement et le juste accompagnement auprès de cet enfant-là qui pose question à l'équipe pédagogique. Voilà, donc il y a aussi ce qu'on appelle des ESS, des équipes de suivi de scolarisation pour ces enfants-là à l'école, pour qu'on réfléchisse là aussi ensemble avec l'équipe pédagogique sur ce qu'on peut proposer, adapter, revoir, voilà, pour accueillir et pour accompagner au mieux l'enfant. Il m'a été amené aussi quelquefois de voir amener des conseils autour de l'accompagnement, autour de démarches d'orientation pour des familles qui sont un peu perdues, qui ne savent plus qui elles doivent aller voir, auprès de quelle porte elles doivent frapper pour se débrouiller, pour se questionner et avancer par rapport aux besoins de leur enfant. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que je peux être amenée à faire. Je peux être aussi amenée à éventuellement accompagner la famille, si c'est trop difficile pour elle, d'aller visiter une structure spécialisée, notamment d'échanger avec les professionnels sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter de spécifique à leur enfant. Eh bien, c'est des démarches qu'on peut faire ensemble. Développer et favoriser le partenariat entre les rééducateurs et la famille, alors peut-être ça peut vous surprendre, parce que vous pouvez peut-être vous dire la famille, elle peut tout à fait s'approprier ce travail de partenariat. Non, c'est pas si simple, parce qu'il y a des familles là aussi qui sont démunies par rapport à ça, qui ne savent pas comment aller rencontrer les rééducateurs, prendre du temps pour ça, leur dire quoi, les questionner, mais si je les questionne, ils vont se sentir remis en question eux-mêmes, et voilà. Donc il m'arrive de faire du lien, en effet, entre la famille et les partenaires. Et puis d'être amené à se rencontrer pour échanger ensemble, tout ça aussi par rapport aux besoins spécifiques de l'enfant, et toujours dans l'idée que ça apporte une meilleure prise en charge pour l'enfant. Donc quand je parle des rééducateurs, bien sûr, c'est notamment tous les libéraux, les kinés, ergothérapeutes, psychomotes, les orthophonistes. Voilà, c'est très large, ça peut être encore même plus étendu. Et puis alors, ce qu'on propose aussi, c'est développer l'autonomie et maintenir les acquis. Alors développer l'autonomie, on va être plutôt chez les enfants, parce qu'il y a tout à monter en termes d'autonomie. Moi, j'englobe aussi ce qui fait partie de ce qu'on appelle maintenant les habiletés sociales. Voilà, ça sert à quoi d'être autonome dans la vie et qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement, parce que ça aussi, on peut apprendre des notions à l'école. Mais concrètement, on en fait quoi? Comment on fait pour aller dans un magasin, pour aller dans une administration, poser ses questions, être à l'aise avec ça quand on est plus âgé? Et puis quand on est tout petit, eh ben, comment on fait aussi, quel outil on a pour mener ces premières petites démarches de séparation là, où le parent va accepter de lâcher son enfant pour faire une première petite démarche dans dans une ludothèque, dans un supermarché du coin, dans la boulangerie. Voilà. C'est vraiment je vous donne ces exemples-là concrets pour vous montrer comment on peut travailler, comment on va donner du sens à ce qu'on fait au quotidien pour grandir, pour être autonome. C'est quoi être autonome? Il faut pouvoir parler de tout ça avec l'enfant pour que ça prenne sens. Et puis maintenir les acquis, eh ben, ça va être plus pour les adultes. Voilà, tous ces acquis qu'il y a eu, mais pour différentes raisons qui peuvent un peu se détricoter, eh ben, c'est important d'y revenir. Et puis, voilà, de mettre des choses en place pour les maintenir. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, que je n'ai pas oublié de choses essentielles. En tous les cas, je vous remercie. Et puis, je remercie aussi M. Deniol de m'avoir permis de participer à cet échange avec vous. Vous voyez ici que j'ai travaillé sur une page Facebook où tout ce que je mets en place, tout ce que je propose, mais je pense qu'il y a encore bien des choses à penser et à monter, figure sur le profil Facebook. Voilà.
Merci beaucoup. Ben, je pense que c'est nous qui vous remercions d'avoir répondu, parce que c'est intéressant d'interroger justement des figures différentes du champ social, comme on dit. Et je vous laisse une question comme ça, mais peut-être qu'il y aura d'autres questions dans la salle avant. Mais c'est sur la question de l'action sociale, parce qu'au fond, on a fait une table ronde sur cette question. Et souvent de fois, on compare la France avec le Québec ou la Belgique, où l'action sociale globale des professionnels, vous avez cité les centres sociaux, les équipements, sont beaucoup plus globales. Et ce qui est intéressant dans votre approche, c'est que vous faites du travail individuel, d'une certaine façon, on peut dire qui devient collectif parfois. Et finalement, comment est-ce qu'on pourrait faire remonter ces besoins, vous l'avez dit à un moment donné, pour les équipements, pour que ça devienne plus collectif? Par exemple, passer d'un travail individuel à l'école des parents, vous l'avez bien montré. Et c'est vrai qu'en France, on a essayé d'interroger l'IRTS aussi, l'Institut Régional de Travail Social, il y a des instituts, sur ces questions-là, et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réponses, à la différence du Québec et de la Belgique. Mais je vous laisse méditer ça, peut-être vous avez un regard là-dessus. Entre-temps, peut-être des questions. Et peut-être avec l'école de la deuxième chance, on aura l'occasion d'aborder aussi cette question du global. Mais vous pouvez répondre éventuellement.
Ouais, moi, je me dis... quand je vous disais tout est à monter, c'est qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas envisagées, il y a des choses qu'on n'a pas pensées, des choses simples à mettre en place. Développer le partenariat, c'est des choses qu'on peut toujours être amené à penser et penser autrement. Moi, quand je me suis installée en libéral, souvent on a l'idée du libéral où finalement on travaille seul, on est dans son bureau, bon, éventuellement on se déplace, quoique... on se déplace en tant qu'éduc, mais bien souvent d'autres casquettes n'ont pas le temps de se déplacer ou ne peuvent pas. Moi, je ne l'ai pas pensé en étant seule. Alors après, parce que j'avais aussi cette culture là du travail en équipe, du travail de réseau, mais je l'ai vraiment pensé dans le sens où j'ai envie d'aller au-devant des autres, j'ai envie d'aller travailler avec les autres partenaires et on va monter des trucs ensemble. Enfin, c'est forcément comme ça, je pense, qu'on va pouvoir évoluer. Et notamment, quand je vous parlais du rapport Pivetot de juin 2014, il valorise qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse coupler les prises en charge, les différentes prestations. C'est valorisé. Alors après, peut-être qu'en effet, concrètement, sur le terrain, ça va être peut-être pas si simple à monter, mais moi, je suis déjà en train de voir que ça évolue. Parce que je suis sollicitée par alors ce qu'on appelle le PCPE, c'est le pôle de compétences et de prestations externalisées. Donc en fait, des institutions qui viennent rechercher des libéraux pour travailler ensemble. Donc ces libéraux viennent compléter des prises en charge, des prestations, soit que l'institution n'a pas, soit de toute façon qui existerait peu. Ou, voilà. Donc en fait, moi, ils sont venus me solliciter en tant qu'éducateur spécialisé pour pouvoir mener ce travail d'accompagnement avec les familles. Donc ça, c'est nouveau, par contre. Les institutions, avant, elles étaient assez renfermées sur elles-mêmes pour plein de raisons. Et du coup, elles s'ouvrent. Et elles font entrer aussi les libéraux, mais elles se déplacent aussi. Donc je pense que notre politique sociale, elle va être en pleine mouvance.
OK. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Pardon.
Merci. Alors, je suis Jean-Jacques Latouille, par hasard inspecteur de l'éducation nationale, avec une triple formation en sciences de l'éducation, en psycho et surtout en sociologie, où j'ai fondé à Lyon l'association de sociologie du développement local. Donc c'est vous dire que la question de territoire m'intéresse sur ces trois champs. Mais ce n'est pas de territoire dont je vais vous parler, c'est bien, ou d'un territoire particulier, c'est celui qui vient d'être évoqué, de la globalité. La différence, et notamment dans les métiers du social, la différence de la France avec le Québec, c'est que le Québec s'est créé. Et c'est créé. Nous vivons depuis un siècle, un peu plus d'un siècle, des antagonismes d'institutions, c'est-à-dire des institutions qui se créent contre. Et votre métier en particulier en est une illustration. Quand j'étais très jeune, il y a 40 ans, et il y a peu de temps qu'a été créé le diplôme d'éducateur spécialisé pour satisfaire des besoins dans des institutions qui elles-mêmes s'étaient créées contre d'autres institutions. Donc on a longtemps, et il y a un bouquin qui vient de sortir, coécrit par un instituteur spécialisé et une éducatrice spécialisée, qui montre que les deux voies étaient parallèles quand elles n'ont pas été antagonistes complètement. Donc le global, le territoire du global, dans le social, est à inventer, réellement à inventer.
Merci, monsieur, de ce témoignage. D'ailleurs, j'avais une réflexion, mais elle m'a échappé, j'y reviendrai après. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui.
Éric Meunier. Moi, j'ai une question, c'est comment c'est pris ? Parce que dans votre métier, c'est plutôt le travail en institution quand même. Qui est, voilà. Et comment est-ce qu'on est perçu quand on est une dangereuse libérale ?
Après... Vous savez, c'est toujours les plus intéressés qui ne sont pas informés, hein, en général, des critiques, en tous les cas. Ça suscite la curiosité, parce que c'est nouveau. Alors, en effet, hein, vous l'aviez annoncé tout à l'heure, éducateur spécialisé en libéral. Ça, on va dire, je n'ai pas les dates précisément, mais il y a à peu près 4 années, il en existait déjà sur Lyon, Paris, dans des grandes villes. Dans nos plus petites villes, ça a mis du temps avant d'arriver. Alors, je sais qu'il y en a un, en tous les cas, sur Poitiers, peut-être plus. J'en ai rencontré une, moi, avant de m'installer sur Angoulême. Ça suscite la curiosité et en même temps, je ne vais pas dire le soulagement, ça vous paraîtrait un peu prétentieux, peut-être, de ma part, mais je pense que d'autres libéraux, des institutions, des familles avec lesquelles aussi j'ai pu discuter... m'ont fait part que ça manquait. Alors, voilà, peut-être je peux m'en tenir à ça. Ça manquait et que peut-être il y avait à réfléchir, en effet, de travailler ensemble. Il y avait des besoins sur le terrain qui étaient plus ou moins identifiés, mais voilà, on n'avait pas forcément pensé qu'un éduc pouvait s'installer en libéral. C'était plutôt de la partie des kinés ou des ergothérapeutes ou de d'autres corps de métier plus encore connus.
Jean-Jacques Latouille, puis après je vous promets que je n'interviens plus. Mais un regard encore historique sur la profession et sur l'évolution de la société. Alors je ne vais pas parler de toute l'évolution de la société, mais il y a 40 ans, il n'y avait pratiquement pas d'infirmières en libéral. Je veux dire que c'est aussi l'évolution, et c'est aussi l'évolution budgétaire des institutions qui vous crée. Parce que dans la mesure où les institutions n'ont plus suffisamment de moyens pour avoir du personnel en permanence... Il va bien falloir aller le chercher ailleurs. C'est aussi l'externalisation. Quand j'ai débuté en IME en 1977, j'ai retrouvé dans ma classe, j'étais éducateur scolaire, j'ai retrouvé dans ma classe le fils de mon voisin. Et nous habitions à 500 mètres de l'établissement. Et ce gamin-là était interne du lundi matin au samedi après-midi. Vous voyez l'évolution qu'on a avec l'externalisation, les CSA, etc. Donc, il y a une nécessité à ce que les métiers du social non seulement s'externalisent, mais se libéralisent au sens du travail libéral.
Merci, monsieur. Ça me revient à ce que je voulais dire, c'était que la question que nous avions posée sur l'action sociale globale provenait aussi du fait que les départements se plaignent de l'augmentation croissante de leurs dépenses sociales. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça ? Malheureusement, peu de réflexion là-dessus aussi. Et je crois qu'il y avait une question là.
En fait, j'avais même deux questions. Il y en a une autre qui est arrivée en cours de route. Agathe Dirani, voilà, chercheur en sciences de l'éducation. Alors, la première, c'était éventuellement, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre parcours antérieur et ce qui vous a vraiment motivé, en fait, dans ce choix d'exercer la profession libérale ? Bon, si vous pouvez nous en dire quelques mots. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que vous travaillez avec le même public que si vous étiez au sein d'une institution ? Et si le public est différent, en quoi il est différent dans votre nouvelle activité ?
Merci. Alors, le parcours, peut-être le tout départ de cette envie d'être éducatrice spécialisée. Moi, j'ai grandi avec des enfants de l'ASE, comme on disait à l'époque, qui étaient placés chez mes parents, qui étaient familles d'accueil. J'en ai pas très souvent parlé, d'ailleurs. Vous me posez la question, je vais en parler. Mais j'ai évolué avec ces enfants-là, qui avaient des parcours assez violents, assez rudes. Voilà. J'ai grandi en tous les cas avec ces enfants-là. J'ai croisé des éducs qui venaient rencontrer ma mère, en l'occurrence. Voilà, je pense que ça nourrit certainement une envie, quelque chose. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. En tous les cas, je crois beaucoup à ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et puis après, ben voilà, je me suis lancée dans les concours. Donc, j'ai eu mon concours de moniteur-éducateur. J'ai commencé comme ça, 2 années à l'IRTS de Poitiers. Ben, je suis poitevine, donc je suis contente d'être là aussi aujourd'hui. 2 années à l'IRTS de Poitiers. J'ai travaillé 1 année entre deux auprès d'enfants et d'adolescents sourds et sourds-aveugles. Je connais beaucoup la plateforme là, sur Poitiers et aux alentours, la plateforme de l'APSA, une grosse association pour les enfants sourds et sourds-aveugles. Donc, j'ai travaillé cette année-là et puis j'ai enchaîné. Je me suis dit, il ne faut pas que je m'arrête là parce que sinon, je vais me mettre à travailler et puis après, je ne vais pas reprendre mes cours. Donc, j'ai passé le concours d'EDUXP que j'ai eu. J'ai quitté Poitiers, je suis partie sur Limoges. C'est un petit peu moins rigolo. Vous parliez tout à l'heure du littoral, mais moi, je me suis retrouvée à Limoges. Et puis voilà. Et puis ensuite, je suis revenue sur Poitiers et j'ai continué à travailler avec le public sourd et sourds-aveugles. Le libéral, eh bien, j'y répondais un tout petit peu tout à l'heure. Ce qui a nourri ça, c'est des témoignages de parents, des constats en institution où je me disais, mais peut-être qu'on pourrait faire ça un peu autrement, peut-être qu'on pourrait réfléchir d'autres possibilités. Et pourtant, moi, là où je suis aussi sous l'autre casquette, donc le CESAD, un CESAD sur Niort, j'ai eu la chance d'avoir une direction qui nous a beaucoup permis de travailler en réseau, de développer le partenariat. Donc, on n'a vraiment pas été étouffés comme on pourrait l'être dans d'autres grosses institutions. Mais je me suis dit, il y a des choses nouvelles à penser, quoi. Comment on pourrait accompagner tous les autres qui ne rentrent pas dans les cases de la MDPH, par exemple ? Et puis, j'ai profité aussi de la lecture de ce fameux rapport Pivetot, où je me suis dit, il y a quelque chose à monter, quoi, c'est pas possible. Là, on est encouragé, et pourtant, vous voyez, ça remonte, hein, 2014, mais je me suis dit, il faut lire entre les lignes, il y a des choses à penser, quoi. On peut être encouragé en tant que professionnel. Voilà. L'autre question, c'était par rapport au public. Le public, eh ben, à ma grande surprise, j'ai démarré avec des parents lambda, comme je vous disais tout à l'heure, avec essentiellement des questions autour des rôles éducatifs, de repères, de bien-être, voilà, des questions autour de l'épanouissement de leur enfant qui avait des particularités, mais un public lambda. Et je me suis dit, bon, bah, ça va me changer un peu du handicap, c'est pas mal non plus. Et puis finalement, eh ben, j'ai de la demande aussi sur, je vous disais, donc des accompagnements d'enfants autistes. Donc, bah, je me dis, c'est chouette aussi parce que je vais pouvoir aussi retourner, alors là, notamment pour cela, sur l'école, retravailler avec les partenaires autour de ce dispositif-là. Donc, je suis contente, vraiment.
Merci en tout cas, merci de vos témoignages. Vous restez parmi nous et je vais demander à Éric Meunier de vous rejoindre. Sur l'école à la deuxième chance, en lançant cette boutade un peu, finalement, est-ce que c'est parce qu'en France, on n'accepte pas le droit à l'échec qu'il faut donner une deuxième chance, à la différence de certaines sociétés où, finalement, échouer, c'est aussi réussir d'une certaine façon à tenter quelque chose.
J'ai le droit de ne pas répondre. Peut-être. Voilà, je répondrai peut-être dedans, mais. Nous, on sait pas. Mais c'est important parce qu'on nous oppose souvent à l'école de la première chance. Et Edith Cresson, qui était à l'origine du concept, n'a jamais conçu ça comme une opposition, mais plus comme une réparation. Ce n'est pas tout à fait pareil quand même. Je crois qu'en France, tout le monde est entraîneur de l'équipe de France. Tout le monde est instituteur et tout le monde est ministre de l'Éducation nationale. Et je pense qu'effectivement, tout le monde a des idées assez arrêtées sur ce que devrait être l'école et comment ça devrait fonctionner. Je ne suis pas persuadé d'ailleurs que ce soit essentiellement de bonnes idées, mais bon. Et du coup, il y a un danger toujours à cette question-là. Et il y a un danger aussi quand on nous présente l'école dans certains conseils municipaux. Il y a souvent des élus qui sortent du corps enseignant ou qui y sont encore, et on a quelquefois la question de on ferait mieux de donner de l'argent à l'école de la première chance. La question ne se pose pas comme ça. D'abord, l'éducation aujourd'hui, c'est le premier budget de l'État, tout confondu. On lui donne de l'argent. Et puis, deuxièmement, on a un système de masse, et les systèmes de masse, ils ne s'accommodent pas des marges. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. C'est très compliqué, on en parlait tout à l'heure, mais quand on est un enseignant, qu'on a la chance d'avoir 4 ou 5 heures d'enseignement, on a 4 ou 5 classes devant soi dans la semaine, 140 élèves, moi je ne sais pas individualiser et prendre en compte les différences de 140 personnes en même temps. À un moment donné, il y a une injonction paradoxale sur ça. Donc finalement, il y a des... Et c'est le constat sur lequel est partie Edith Cresson, c'est de dire qu'effectivement, on ne pouvait pas... Alors on était dans la projection vers l'économie de la connaissance. Et alors vous verrez, j'ai tendance à parler par métaphore, par... Bref, faire des blagues pourries, mais on ne pouvait pas laisser dans une économie de la connaissance des jeunes sans connaissance au bord du chemin. C'était ça, son constat de départ. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait, en France, on ne savait pas, alors, selon la police, 50 000, selon les manifestants, 150 000 jeunes qui sortaient tous les ans du système scolaire sans diplôme ni qualification. À l'époque, on ne comptait pas. Hein, on daignait d'un côté et on fantasmait de l'autre. Mais en tout cas, c'était pour elle le constat qu'on ne pouvait pas faire ça. On ne pouvait pas laisser cette situation-là pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on allait marginaliser des concitoyens. Parce que ces jeunes, c'est d'abord peut-être nos enfants, mais c'est aussi des concitoyens avant d'être des jeunes ou un public ou je ne sais pas quoi. C'est des concitoyens. C'est-à-dire que si on ne faisait rien, on laissait des concitoyens et on les marginalisait, ce qui n'était pas acceptable. Et puis, il y avait la vision économique, mais c'est presque la rationalisation, et pour faire accepter l'idée, de dire qu'à un moment donné, ces personnes, il ne fallait pas les laisser comme bénéficiaires de la solidarité, mais essayer de les faire passer au stade de contributeurs. Parce que dans les comptes publics, ça compte deux fois. Mais ça, dans la tête d'Edith Cresson, c'est une rationalisation. Son souci premier, c'était on ne peut pas laisser des gens sur le bord de la route. Et donc, en 1995, lorsqu'elle était commissaire européen, elle a commis un livre blanc sur « Enseigner à apprendre » vers la société cognitive. Elle développait un concept principal dedans qui était la formation tout au long de la vie, qui est un concept qui commence enfin à s'imposer dans le droit français, mais il aura fallu quand même plus de 20 ans pour y arriver. Il aura fallu 20 ans pour y arriver. Tout le monde a oublié que c'est elle. Et il y avait dans un coin un truc qui disait ben, on va aussi créer des écoles de la deuxième chance. Voilà. Et elle revendique elle, le terme d'école. Il y a des discussions dans notre réseau par moment sur... on ne devrait pas s'appeler école, on fait peur aux jeunes. On ne va pas non plus les prendre pour des crétins. Quand ils rentrent chez nous, ils voient bien qu'il y a des salles de formation, des tables, des chaises, des tableaux, etc. Donc à un moment donné, on choisit de revendiquer. Donc 95, voilà, elle est commissaire européen. Elle arrive à dégager des moyens pour une expérimentation dans chaque pays. Et en France, la première ville et la seule qui se manifeste à l'époque, c'est Marseille. Donc Claude Gaudin qui dit, bah, j'en veux une, voilà. Et elle reste, Marseille, assez emblématique, c'est la plus grosse école en site unique. Voilà, puis les écoles se créent. 2005, c'est celle de Châtellerault qui ouvre. Comme quoi, nul n'est prophète en son pays, il a fallu du temps. et puis un changement politique à la tête de la région. Et puis, 10 ans après, 2015, le département, effectivement, des Deux-Sèvres, fait un constat. Il y a 20 à 25% des bénéficiaires du RSA qui ont moins de 25 ans. Et le président de l'époque, Éric Gauthier, dit « Mais c'est pas possible, on peut pas rester dans cette situation-là. » Et encore une fois, humainement, économiquement, c'est pas tenable. Et ils ont cherché des solutions potentielles. Et parmi les solutions qu'ils ont identifiées, il y avait l'école de la deuxième chance. Et finalement, l'école de la deuxième chance, nous avons ouvert un second site à Niort. Et nous avons changé de nom. Nous appelons maintenant le dossier Vienne et Deux-Sèvres. Donc on changera encore de nom quand on ouvrira Angoulême, j'espère. Il va falloir trouver un nom un peu plus générique, parce que si on rajoute les noms de départements à chaque fois, ça va être un peu problématique. Comment ? Ouais, alors quand on arrive à Bordeaux, je suis pas persuadé que rappeler le Poitou-Charentes soit particulièrement judicieux actuellement. Donc on a évité. Voilà, moi je prêchais plutôt pour l'école du Poitou. Parce que le dossier du Poitou, historiquement, ça avait un sens, la Vienne, les Deux-Sèvres, etc. Bon, et puis quelques jours après, d'ailleurs, on avait un article dans le journal sous l'impulsion de Jean-Pierre Raffarin qui disait qu'ils font fusionner la Vienne et les Deux-Sèvres. Donc je me disais, tiens, après tout, pourquoi pas. Et donc je suis encore un Deux-Sèvrien pour partie, puisque après tous mes collègues précédents, les Deux-Sèvres sont encore à l'honneur. Poser des questions sur la créativité dans les Deux-Sèvres. Quand même. Il doit y avoir un climat propice quand même. Voilà un petit peu pour la genèse rapidement. Aujourd'hui, il y a 51 écoles de la deuxième chance en France sur 115 sites et qui accueillent peu ou prou 15 000 jeunes par an. Et a priori, le gouvernement a l'air de vouloir augmenter. Voilà. Et ce qui est important, c'est peut-être dans la croissance, rappeler qu'il y a eu... En 2007, un président de la République a dit « j'en veux une dans chaque département » et qui a essayé de faire ce qu'il fallait pour qu'il y en ait une et qu'on a eu une impulsion très forte à partir de ce moment-là, qui a été accompagné par le président suivant et qui est à nouveau accompagné. C'est pour dire que c'est œcuménique, les écoles de la deuxième chance. Alors, les écoles, après juste cette rapide genèse, c'est quoi une école de la deuxième chance ? Alors, c'est un peu... Voilà, on a défini ce qu'on appelle une charte des principes fondamentaux, ça doit être notre préambule de la Constitution à nous, mais en gros qui dit une école de la deuxième chance, c'est une institution qui est portée par les collectivités territoriales et locales et ou consulaires, dont l'objectif est d'assurer l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté, en partenariat étroit avec le monde de l'entreprise, qui ne délivre pas de diplôme mais vise à accréditer des compétences, qui accompagne le projet personnel et professionnel du stagiaire et qui travaille en réseau avec tous les acteurs intervenant auprès de leur public. En gros, c'est ça. Une fois qu'on a dit ça, on a une grande liberté dans le projet. Ça, c'est super intéressant. Et du coup, comme il y a une grande liberté, il y a un grand risque, c'est le n'importe quoi. Bah, et quand même, un chien-lit. Et donc, on est arrivé à l'idée qu'il fallait quand même définir ce que c'était que l'école, aller plus loin, et donc il y a eu l'idée de déposer le nom. De faire quand même que les porteurs de projets ne présentent pas n'importe quoi sous le terme école. On ne peut pas déposer le nom, donc finalement, on a déposé une marque, c'est la première étape. Et l'idée, c'était de dire, c'était pas pour empêcher les gens de faire, c'est juste pour s'assurer que ceux qui s'appelaient école de la deuxième chance correspondent bien à ces critères, qu'ils soient bien là-dedans. Et puis, on est arrivé à un processus de labellisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu en fait un article du Code de l'éducation qui définit légalement ce qu'est une école de la deuxième chance et qui dit notamment une école de la deuxième chance est un organisme labellisé. Donc il a fallu mettre en place un label. Donc on l'a fait avec le ministère de l'éducation, le ministère du travail. À l'époque, il y avait un haut commissaire aux solidarités actives à la jeunesse et puis un secrétaire général à la politique de la ville. Voilà. Donc c'est deux ministères et deux institutions paraministérielles. On travaillait avec le réseau et en fait on a élaboré un label, les écoles de la deuxième chance, qui est décerné par une commission externe au réseau, des auditeurs qui sont des auditeurs de l'AFNOR pour l'instant, qui sont formés à l'audit, sont des professionnels de l'audit, et nous on compte les points. Voilà, et nous sommes labellisés tous les 2 ans. En fait, il y a un audit intermédiaire tous les 2 ans et un tous les 4 ans. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est l'amélioration permanente. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque audit, il peut y avoir des alertes. Et puis, surtout, ils adorent ça, les auditeurs, c'est les pistes de progrès. Voilà, ça c'est quand vous sortez avec des pistes de progrès, vous avez satisfait votre auditeur, il est super content, et vous aussi, vous avez du boulot pour les mois qui viennent. Mais c'est ça l'idée, c'est en gros, on ne se contente pas de ce qu'on a et on essaye d'avancer. Voilà un petit peu le schéma. Et puis, il y a un réseau des écoles de la deuxième chance, qui est le gestionnaire de la marque et qui anime le label, dont toutes les écoles sont membres. À partir du moment où on s'appelle École de la deuxième chance, on est membre de ce réseau, et qui, effectivement, essaye de travailler à la fois pour le côté lobbying, ça c'est super important, on va pas se voiler la face, et puis en même temps, faire avancer, essayer de mettre en commun, de trouver des synergies, de réfléchir, etc., et de faire avancer le schmilblick pour tout le monde. Après, comment ça se décline? C'est une institution portée par les collectivités territoriales. Et finalement, là, on est vraiment dans l'enjeu. C'est pourquoi? Parce que finalement, ça pourrait être porté par n'importe qui. Monsieur Labrousse nous a bien montré qu'un individu, un particulier, pouvait porter un beau projet. Alors, dans l'idée, d'abord parce qu'Edith Cresson, c'est quelqu'un qui est aux affaires, qui a été maire, etc., et qu'elle pensait, elle, mais finalement, c'est ce que vous recherchez aussi, que pour avoir une reconnaissance institutionnelle, il fallait que le territoire porte. Il fallait que le territoire porte pour ça, mais aussi parce que si le territoire il porte pas, eh ben il se passe pas grand chose. C'est-à-dire qu'on va greffer un truc sur un territoire, vous l'avez démontré, tous les intervenants précédents l'ont démontré, et on peut pas greffer un truc sur un territoire. Il faut que ça vienne du territoire, que le territoire porte le projet, que le territoire après trouve des alliés pour le faire vivre, et parce qu'après le projet il va vivre avec le territoire, et il va se nourrir des ressources du territoire, et il va rendre en retour des effets au territoire. Et puis, il y avait l'idée extrêmement importante d'une stabilité des moyens. Alors, pérennité, c'est un gros mot, hein, finances publiques, on raisonne en annualité budgétaire, mais au moins essayer d'être sur une stabilité des choses. Et l'idée que ce soit porté par des collectivités locales et territoriales, elles sont moins sujettes, elles sont moins versatiles que l'État central sur un certain nombre de choses. Et effectivement, c'était important. Et puis, c'est être porté par une collectivité locale ou consulaire, c'est avoir des alliés dans la discussion avec les services régionaux ou les services de l'État. C'est ça aussi. Et c'est un projet politique, et pour le coup, avec un P majuscule. Donc c'est vrai que nous, je les ai mis ici, on est financé effectivement par la ville de Niort, la communauté d'agglomération du Niortais, le pays Châtellerault, qui s'appelle Grand Châtellerault maintenant, le département des Deux-Sèvres, la région, l'État, CGET, l'État, ministère du Travail, et le FSE. Et je pourrais y rajouter les entreprises, puisque nous avons 10 à 12% de notre budget qui nous vient des entreprises elles-mêmes. Donc c'est un point important. La première fois que j'ai suivi une formation, pour moi, dans le domaine de la formation professionnelle, c'était une formation sur les institutions, et c'était un haut fonctionnaire qui était là, il disait, si vous voulez savoir quelle est la réalité d'un discours politique, regardez le budget qui lui est alloué et son évolution. Regardez, si vous avez un discours et pas de budget, c'est qu'il n'y a aucune volonté. Si on vous dit ça va se développer mais que le budget n'augmente pas, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Et s'il y a un discours sur ça va se développer et que le budget augmente, c'est qu'il y a une adéquation entre les moyens et le discours. Alors, la situation financière a un peu changé, mais ça reste quand même très vrai. Et effectivement, c'est important de savoir qui nous finance et surtout comment ils s'impliquent dans l'association. Nous sommes une association de loi 1901, et hormis l'État, pour des raisons de droit, ne souhaite pas figurer dans les instances, tous les autres financeurs sont membres des instances. Ils sont au conseil d'administration, à minima, voire au bureau. Donc la présidente de l'école s'appelle Edith Cresson, et puis on a 3 vice-présidents, un pour la région, un pour les collectivités des Deux-Sèvres, un pour les collectivités de la Vienne, et puis il y a une vice-présidente, c'est la 4e, pardon, pour les partenaires du monde économique et de l'insertion. Voilà un petit peu le schéma de fonctionnement. Donc, dans la constitution même de l'école, il y a cet ancrage territorial. Et puis, sur les moyens, bah, c'est vrai que ceux qui connaissent le monde de la formation savent que c'est le règne d'un truc qui s'appelle le CDD d'usage. Je vois si ça parle. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un domaine d'exception à la règle du CDI. Nous étions très en avance dans la formation sur la réforme du Code du travail. Et donc, c'est un domaine dans lequel on peut embaucher des CDD à perpète. Puisqu'il suffit que l'équipe permanente ne puisse pas faire le travail. Donc si vous décidez que votre équipe permanente c'est vous et votre secrétaire par exemple, Et là, tous les autres sont CDD d'usage de droit. Voilà. Donc là, l'idée aussi d'Edith Cresson, c'est qu'il y a des moyens. Donc il y a des moyens, il y a une équipe. Et dans le label, on vérifie que les gens sont en CDI et on demande les contrats de travail. Pareil comme ça, un peu. Voilà. Et c'est l'idée d'avoir des moyens vraiment stabilisés, des moyens aussi conséquents, puisque sur un site, il y a entre 8 et 9 personnes qui travaillent, formateurs, sachant qu'on accueille à l'année à Châtellerault 90 jeunes, à Niort 120, et que simultanément, alors ça c'est aussi la particularité de l'école, nous travaillons en entrée-sortie permanente, il n'y a pas d'année scolaire, donc à Châtellerault il y a des jeunes qui rentrent toutes les semaines, et à Niort on est sur des entrées qui sont quasiment mensuelles. Des logiques, ce qu'on appelle des logiques de promo, sachant qu'à Niort, au terme de ce qu'on appelle la période d'essai, je reviendrai dessus après, évidemment, les jeunes ont un parcours qui est totalement individualisé. Voilà. Il y a effectivement une fonction de relation entreprise, on reviendra dessus après, mais c'est vraiment la colonne vertébrale de l'école. Et puis on a de l'accompagnement, alors à la fois par ce qu'on appelle des formateurs référents, et puis des accompagnatrices socio-administratives, puisqu'on fait de l'accompagnement physique aux démarches, mais ça aussi on en reparlera. Alors, assurer l'insertion professionnelle et sociale. Alors ça aussi c'est un challenge, parce que on parlait de global tout à l'heure. Alors, c'est ce qu'on appelle la prise en charge globale du jeune. À la fois, ça semblait évident qu'on n'allait pas le dissocier. Le jeune, il n'est pas schizophrène, il n'est pas futur salarié la journée, citoyen à un autre moment, papa ou maman ou fils ou je sais pas quoi, il est lui tout le temps. Et il n'y a pas de projet professionnel qui tienne sans le projet de vie qui va avec. Voilà. Et puis on ne peut pas élaborer un projet d'insertion professionnelle quand on est à la rue, quand on a ce qu'on appelle une errance résidentielle, c'est-à-dire qu'effectivement on loge chez les copains, on ne sait pas trop où on va, etc. À un moment donné, il faut prendre en compte l'ensemble de ce qu'est le jeune et essayer de travailler avec lui sur le règlement de ses problèmes. Alors évidemment, on ne règle pas tout nous. Et en plus, on a une philosophie, nous, c'est que le jeune doit apprendre à accéder à ce qu'on appelle les dispositifs de droit commun. C'est-à-dire qu'on évite de recourir, par exemple, au fait d'avoir une psychologue en interne à l'école. On a effectivement un groupe de parole parce qu'ils ont besoin d'évacuer des choses. Mais s'il doit y avoir un accompagnement thérapeutique, par exemple, on va travailler avec le jeune sur la mise en place de cet accompagnement à l'extérieur, de manière à ce que le jour où il quitte l'école, il puisse continuer sans nous. C'est-à-dire, je parle de ça parce qu'il y a quand même une problématique qui monte sur le mal-être psychologique des jeunes, mais ça peut être sur le domaine du logement, ça peut être sur le domaine de la mobilité, etc. Leur apprendre à utiliser les dispositifs. Et mine de rien, il y en a quand même un certain nombre sur les territoires aujourd'hui qui sont à leur disposition et que souvent ils méconnaissent. Alors, qui accueillons-nous finalement? Alors, on accueille des jeunes de 16 à 35 ans. Alors c'est vrai qu'administrativement, la catégorie jeune, c'est souvent 16-25. Elle n'a aucun sens statistique, parce que déjà l'INSEE fait des stats 15-25. Donc 16-25, c'est tout simplement parce que la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, et qu'effectivement, on ne pouvait pas, sur les logiques de formation professionnelle, démarrer à 15 ans, sinon il y aurait eu un souci. Donc c'est 16-25. Et en même temps, l'arrêt à 25 ans n'a aucun sens. Déjà, l'Europe l'arrête à 30 ans, la notion de jeune. Et quand on regarde les statistiques sur l'occupation d'une classe d'âge, ben on s'aperçoit que, en gros, les jeunes, jusqu'à 27 ans, on est à peu près à 30% de jeunes en CDI, 30% de personnes d'une classe d'âge en CDI. Ça monte à 60, à peu près 2/3 de la population à 32 ans. Puis après, on ne va jamais au-delà et ça commence à redescendre sérieusement à 45. Donc, effectivement, le 35 ans, il a un sens. Si on définit un public par rapport à une problématique, il a un sens. Après, moi, quand je me console, je me dis qu'on est jeune plus longtemps en Poitou-Charentes. Et ça me va bien, ça me va bien aussi. Et puis, pédagogiquement, c'est sympa parce que ça frotte un peu de temps en temps. Mais disons qu'il y a un dynamisme chez certains et une maturité chez d'autres. Et que du coup, tout ça se nourrit par moments dans la friction. Ils sont sortis du système scolaire depuis plus d'un an. Ça fait partie des corollaires de la charte. Et c'est important pour nous parce qu'un jeune qui sortirait de l'école fâché contre l'école, je ne vois pas comment il pourrait tirer bénéfice chez nous s'il arrivait 3 mois après. Il faut à un moment donné qu'il ait pu s'apaiser par rapport à cette histoire, qu'il ait pu éventuellement tenter d'autres choses, qu'il ait pu faire un retour sur son expérience et accepter à nouveau l'idée. Mais j'ai envie de dire, s'il est vraiment sorti fâché du système scolaire, on ne va pas lui apporter grand-chose. Il ne sera pas en état de recevoir ce qu'on a à lui apporter tout de suite après. Et puis, ils sont sans diplôme ou formation qualifiante. Voilà. Ça aussi, c'est un point important. Il y a le souhait que vraiment cette école, elle cible des jeunes, les jeunes pour qui elle est faite et qu'il n'y ait pas de dérive pour aller chercher des publics avec qui ce serait plus facile. Alors, on a des dérogations. En général, 3-4 par an. Sur des jeunes qui sont allés à un bac général, et puis il y a eu des accidents de la vie, et aujourd'hui il faut repartir de zéro. Voilà, et donc souvent là on a des problématiques personnelles associées qui sont assez lourdes. Et puis on a quelquefois des personnes aussi qui ont pu suivre une formation qualifiante et qui ne sont plus en mesure d'exercer. Alors il y a quelques cas d'orientation subie, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, là on accueille un jeune homme qui a démarré dans les métiers du bâtiment et qui s'est découvert une allergie au ciment. Ben, donc là, effectivement, il y a une justification. Et du coup, il n'arrive pas à reconstruire un projet professionnel. Et l'idée, c'est de travailler le projet professionnel avec lui, en fonction de ses particularités. Et puis après, il va accéder à une formation qualifiante avec d'autres organismes. Et l'entrée à l'école, elle se fait sur la base d'un entretien. Parce que si on commence à faire des tests, on va se faire peur tout seul. Donc, pour que vous ayez une petite idée, 80% des jeunes qu'on accueille ne maîtrisent pas les quatre opérations. Et 80% des jeunes ne savent pas conduire un raisonnement déductif de manière fiable. C'est-à-dire, en gros, si on prend Piaget, ils ne sont pas complètement au stade formel. Et ça, c'est un indicateur important parce que ça veut dire que, par exemple, ils n'accorderont jamais le participe passé. Et que vous pouvez leur mettre devant eux le meilleur pédagogue du monde, comme l'accord du participe passé se déduit de l'environnement de la phrase, de la constitution de la phrase, si vous ne savez pas faire un raisonnement déductif, vous y allez au pif. Des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Ils ne savent pas s'adapter, au sens, encore une fois, pour s'adapter, il faut déduire de ce que l'on connaît de nouvelles choses. Et donc ça, ils n'ont pas cette capacité-là. Donc souvent, ils sont réduits à des tâches d'exécution. Et dès qu'il y a un changement, ça devient compliqué pour eux. Dès que les conditions de la tâche, il suffit de voir aujourd'hui le discours des entreprises sur le besoin d'adaptabilité des salariés pour comprendre leurs difficultés dans un monde du travail où on demande aux salariés de suivre les procédures à la lettre en faisant preuve d'autonomie. C'est très compliqué pour ces jeunes. Ça l'est déjà pour ceux qui peuvent déduire, mais ça l'est effectivement encore plus pour ces jeunes-là. Et puis, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la motivation. Mais encore une fois, si le jeune nous dit « moi, je veux trouver un travail », d'accord. Mais on a quand même quelques-uns qui nous disent « je ne sais pas ». Alors on leur dit « écoutez, quand vous saurez, on se revoit, réfléchissez, vous retournez à la mission locale, à Pôle emploi, au CCAS, mais voilà, nous, il faut quand même qu'on ait, vous ayez une envie de quelque chose pour effectivement... voilà. » Et puis, de toute façon, pour paraphraser, je crois que c'est Sartre, il n'y a pas de motivation, il n'y a que des preuves de motivation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la motivation, on la voit dans l'implication, dans la persévérance, dans l'envie. Ça ne veut pas dire qu'ils soient outillés. Hein. Ils ont envie, mais ils n'ont pas les outils. Donc notre boulot, c'est aussi de les outiller. Alors si je devais les décrire un peu statistiquement, on a effectivement cette année un peu plus de jeunes femmes que de jeunes hommes, 55%. C'est très lié au marché du travail, l'intérim reprend. Sur le bassin Châtel-Rodet, les jeunes hommes, c'est de l'intérim industriel ou bâtiment, qui concerne plus les jeunes hommes. Donc effectivement, ils vont en intérim, donc on a une proportion, par contraste, plus importante de jeunes femmes. On a un âge moyen qui se situe à 23 ans, un peu plus élevé pour les jeunes femmes. Voilà. C'est des choses assez stables, finalement, et on s'aperçoit qu'en comparant nos écoles entre nous, finalement, ces résultats-là, ils sont liés au bassin d'emploi. Et aux caractéristiques du bassin d'emploi, et que ça ne change pas. Voilà. Alors, on a une année 23 ans et demi, l'année d'après 22,8 ans, mais à 90 jeunes par an, la statistique ne joue pas vraiment. Donc voilà, il faut être... on connaît à peu près nos caractéristiques de public. Et puis, on en a à peu près la moitié qui ont moins de 23 ans. Donc quand même relativement jeunes. Urbain à 95%. Alors là aussi, il faut que je m'explique un tout petit peu. on applique la définition de l'INSEE, c'est-à-dire qu'une zone urbaine, c'est une agglomération de plus de 2000 habitants ou une agglomération de moins de 2000, mais qui est située à moins de 200 mètres d'une autre agglomération, qui font que les deux... Bon, bref, en gros, Angers-les-Ormes, ça reste un secteur urbain. La notion d'urbain par rapport au rural reste réduite. Et puis, on accueille 45% de jeunes issus des quartiers politiques de la ville. Là aussi, c'est important et c'est problématique. C'est important parce que les quartiers politiques de la ville sont déterminés sur un critère aujourd'hui, quel est le revenu médian de la population. Et il doit être de 60% du revenu moyen du territoire. Donc, c'est quartier de personnes pauvres, voilà, pour le faire rapidement. Or, il se trouve que dans l'ouest de la France particulièrement, mais sur nos territoires, il y a des zones rurales de dimension importante dans lesquelles il y a des personnes pauvres qui sont disséminées dans la campagne et que du coup le revenu moyen du territoire n'est pas déconnecté du revenu moyen, mais ces personnes ne sont pas prises en compte. Ceux qui habitent les territoires ruraux connaissent ce phénomène. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a des poches de population en difficulté, comme dans les grands quartiers politiques de la ville qu'on connaît, qui sont emblématiques, effectivement, on les identifie bien. Et du coup, le fait de cibler sur la politique de la ville fait qu'une école qui s'installerait dans un territoire rural plein de difficultés ne bénéficierait pas de toutes les aides de l'école, de l'État, par exemple. Voilà, pour resituer. Et puis, sur les niveaux, vous voyez, un niveau 6, 5 bis représente quand même les deux tiers des jeunes accueillis. Et puis, on a une petite proportion de 4 non validés. Là, on est sur des personnes, effectivement, soit c'est les dérogataires dont j'ai parlé tout à l'heure, soit c'est des personnes qui ont arrêté en terminale sans valider leur diplôme. 5% de personnes travailleurs handicapées et quand même 58% sans expérience professionnelle. Voilà, pour un petit peu préciser. Le parcours du jeune chez nous, c'est un parcours par contrat. Donc avant l'entrée, il y a ce qu'on appelle une phase de préparation sur la partie administrative, le positionnement sur les savoirs de base, de manière à ce que le jour où il démarre, on est vraiment au taquet, on sait par quoi on commence, comment on commence, etc. Il y a une période d'essai de 2 mois, parce qu'on leur demande beaucoup, parce qu'on leur demande de s'interroger sur leur projet professionnel, sur leur projet de vie, de modifier leurs habitudes de vie, de refaire de la remise à niveau, ce qui ne leur plaît pas toujours. On leur propose plein d'activités complètement déstabilisantes. Atelier d'expression, aller au spectacle, partir au Portugal, aller visiter les plages du débarquement, ça vous fait rire, mais causer des jeunes qui n'ont jamais quitté Châtellerault, qui n'ont jamais découché de chez eux, c'est extrêmement compliqué pour eux. Enfin, on les met en tension sur un certain nombre de choses. On a des jeunes femmes qui sont mères de famille, qui ne se sont jamais séparées de leurs enfants. On en a d'autres qui accepteraient bien, mais dont le conjoint ne veut pas. Bah, et quand même, pas torcher les gosses. Voilà, donc il y a tout ça. Donc c'est un effort quand même extrêmement soutenu. Et on en a un certain nombre qui, pour des raisons personnelles, parce qu'ils ont plein de problématiques à côté, sont pas en capacité de pouvoir faire cet effort. Donc ça nous arrive d'arrêter des parcours, d'en voir avec eux, de revoir avec le conseiller de la mission locale, etc., pour qu'ils règlent ce qui coince et quitte à ce qu'ils reviennent après. Après, il y a des jeunes qui n'ont pas envie. Voilà, ils n'ont pas envie de faire l'effort. Ils ont envie de changer leur situation, mais la notion d'effort est une notion pour certains compliquée. Et puis il y a des environnements délétères aussi, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont envie et ils ont des environnements qui les rattrapent quelquefois de manière extrêmement violente parce qu'ils vont sortir de la norme. Et puis on va renouveler, à chaque contrat, il y a des objectifs qui sont définis en matière de projet professionnel, éventuellement d'accompagnement aux démarches, de remise à niveau, etc. Et on y associe ce qu'on appelle les prescripteurs. Alors en 2015, ça je l'ai gardé parce qu'on n'a jamais fait aussi fort, 78% de sorties positives. Bon, la moyenne réelle sur le long terme, c'est 60%. Ce qui, c'est quand même pas si simple que ça. Mais sur un bassin comme le nôtre à Châtellerault, c'est des choses très fluctuantes. En partenariat étroit avec le monde de l'entreprise, l'école, sa particularité par rapport à d'autres dispositifs d'insertion, c'est à peu près le seul que les entreprises investissent, créent, gère, administre, finance et dans lequel elles s'investissent pédagogiquement, au-delà de l'accueil de stage. Ça, c'était une des vraies réussites d'Edith Cresson. Et c'est vrai que les jeunes passent 40% du temps en stage dans les entreprises pour découvrir les métiers, se confronter à la réalité, valider le projet, acquérir des compétences et vérifier leur employabilité. On travaille avec les entreprises sur effectivement la découverte des métiers, les tables rondes, des visites d'entreprise, des simulations d'entretien. Il y a un gros travail. Et puis en plus, ils financent la taxe d'apprentissage. et il participe aux instances, comité de pilotage, conseil d'administration et bureau. C'est une manière forte. Et c'est intéressant de voir aussi comment les chefs d'entreprise peuvent changer leur regard quand ils sont à l'intérieur des instances. Parce que finalement, il y a un regard sur la jeunesse. Déjà, la jeunesse, c'est pas un truc homogène. Puis en plus, nos jeunes, c'est quand même pas la partie la plus sexy de la jeunesse dans les médias. On est quand même plutôt, c'est la représentation des sauvageons, tel que l'avait exprimé un ancien ministre. Et quand ils découvrent effectivement le travail quotidien, ce par quoi ont pu passer un certain nombre de ces jeunes dans leurs histoires de vie, etc., avant. Et pour situer, il y a une phrase moi qui m'énerve, c'est « ce dispositif est destiné aux jeunes les plus éloignés de l'emploi ». Alors ça donne quoi ? Pour un chef d'entreprise, un jeune éloigné de l'emploi, il n'a pas le bac, voire il a un bac général. Pour un conseiller à la mission locale, enfin pour quelqu'un de l'école de deuxième chance, un jeune éloigné de l'emploi, déjà, il n'a pas de diplôme du tout. À la mission locale, il y a des jeunes qu'on n'envoie même pas à l'école de la deuxième chance. Et au CHRS, il y a des jeunes qu'on n'oriente même pas vers la mission locale. Et il y a des jeunes qui ne vont même pas au CHRS. Donc la notion d'éloignement de l'emploi, c'est une espèce de notion relativiste, une espèce de concept valise qui ne veut rien dire. À un moment donné, il faudrait que les politiques, quand ils conçoivent des dispositifs, ils soient en capacité de donner des symptômes, des choses plus précises sur ce qu'est un jeune éloigné de l'emploi, parce que du coup, tous les dispositifs sont destinés aux jeunes les plus éloignés de l'emploi. Donc il y a pléthore de dispositifs qui ont tendance à se marcher sur les pieds, tant qu'à faire, alors qu'en fait, ils sont pas conçus pour les mêmes publics. Militante. J'ai parlé de la formation d'alternance, le réseau d'entreprises partenaires, voilà. Et puis, sur l'accréditation des compétences, c'est vrai qu'on fait un gros boulot sur les contenus de formation et sur l'accréditation. Alors, j'ai parlé de la partie projet professionnel. Sur les compétences, effectivement, l'acquisition de nouvelles compétences, il y a la partie remise à niveau français, maths, informatique. Donc, on considère que tout ce qui est bureautique, utilisation des outils, ça fait partie de la remise à niveau et des savoirs de base. Mais ça fait des années. Et puis, on commence à attaquer la partie codage informatique. J'espère qu'on va réussir. Quelque chose autour de ce qu'on appelle pompeusement la connaissance du monde contemporain. Mais pour faire un état des lieux, 80% ne savent pas ce qu'on fait le 14 juillet. 60% ne savent pas qu'il y a eu des camps de concentration. Et je vous passe... celle-là, c'est celle qui me parle le plus. Mais il y en a d'autres. Et l'idée, ils ont une pauvreté de connaissances. Et l'idée, c'est d'enrichir leur connaissance du monde, d'élargir leurs horizons et de leur faire voir d'autres choses. Voilà. Et puis, ça les met dans des situations où ils doivent s'adapter. On essaye de développer la culture scientifique et technique parce qu'elle devient prégnante. Je ne sais plus qui l'illustrait tout à l'heure. On dit, là, c'est Monsieur Labrousse, je crois. Et puis, vous aussi, sur le côté, je ne suis pas à l'aise avec l'informatique. Bah, mais on nous demande à tous maintenant de l'être, et particulièrement aux jeunes qui arrivent. En plus, les nôtres, ils sont nés du mauvais côté de la fracture. C'est-à-dire qu'il y a une fracture en France... économique, sociale, numérique, c'est la même. Et il y a 20% de la population qui est du mauvais côté, et les jeunes de l'école de la deuxième chance, ils sont du mauvais côté. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont jeunes, on pense que le numérique, ils y sont super à l'aise avec, pas du tout. Alors pas du tout, il y en a un paquet qui sont bloqués du mulot. Donc c'est, voilà, il y a vraiment à travailler avec eux sur ce sujet-là. Et puis on essaye de les faire participer à des projets pédagogiques, de les faire élaborer des projets pédagogiques. Donc là, il y a un groupe qui est parti à Avignon cet été. On a découvert qu'il y avait une association qui s'appelle les CMEA qui fait des séjours au festival d'Avignon. Donc on a essayé d'en profiter. On a un groupe qui part à Porto, toujours sur l'idée de rencontrer, de voir d'autres choses. Et puis, on a les mini-entreprises, donc on en parlait tout à l'heure. Les jeunes travaillent tout au long de l'année sur la création d'une entreprise qu'ils créent de A à Z, qu'ils pilotent de A à Z, avec un accompagnement de notre part de chef d'entreprise et de comptable, mais c'est eux qui bossent, qui font le travail, qui réfléchissent, etc. Et puis là, on démarre un projet qui s'appelle la garde-robe professionnelle partagée, où l'idée, c'est de construire un vestiaire de tenue professionnelle, puisque quand un jeune découvre un métier, il a souvent besoin d'une tenue professionnelle. Mais acheter une tenue quand on va faire peut-être qu'un stage, c'est quand même idiot. Donc l'idée, c'est qu'on puisse leur proposer ça. Et puis, donc ça les amène à s'interroger, quels besoins, quelles entreprises, quelles tenues, c'est quoi un équipement de protection individuelle, etc. Donc on va travailler tout un tas de choses avec eux. Et puis sur le savoir-être, y a tout ce qui est accompagnement à la vie pratique et sociale. Il y a aussi le théâtre, il y a les ateliers d'écriture, le sport. Et puis on a un gros travail sur ponctualité, assiduité. Et au risque de vous choquer, il y a une pointeuse à l'école de la deuxième chance. Parce qu'un salarié pointe. Et qu'un chef d'entreprise, si en période d'essai, vous arrivez 5 minutes en retard, en général, c'est rédhibitoire. Et les jeunes, ils ont la spécialité d'arriver à 29, les cours commencent à 30. À 29, ils sont en bas. Donc ils ont fait 98% de l'effort, dès qu'ils fument leur cigarette et ils arrivent à 35. Voilà. Et ça, il faut qu'on arrive à leur expliquer qu'un chef d'entreprise ne l'acceptera pas. Voilà. Et donc, on a un juge de paix. Voilà. Et donc, quand un jeune sort de l'école, on est capable de lui délivrer ce qu'on appelle un relevé d'acquis dans d'autres domaines, mais c'est une attestation de compétences acquises au verso duquel on va avoir tout ce qu'on a nous validé. J'accélère, c'est ça ? Et pour donner une petite idée, le jour de l'audit, l'auditeur tire des dossiers au sort et vérifie qu'on est capable de prouver que ce qui est sur ce document, on en a la trace. Donc une attestation d'employeur, une évaluation réalisée, une preuve numérique, etc. Le projet professionnel, j'en ai parlé. Le parcours, j'en ai parlé rapidement. Et puis peut-être les points 5 et 6, mais c'est la mise en réseau. On a aujourd'hui, si je prends Châtellerault, je crois que c'est une centaine de partenaires avec qui on travaille. Alors quelquefois une fois tous les deux ans, quelquefois quasiment tous les jours. Mais l'école, c'est vraiment un gros travail. Et ça boucle avec ce que je disais au début sur la nécessité d'être porté par le territoire, parce qu'on a besoin de l'ensemble des ressources du territoire, et que si on est plaqué sur un territoire, on ne connaît pas ses ressources.
Ok, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui.
Merci. David Jadot, donc cette fois, en tant que président de Partlab, le Fab Lab de partenaires, oui, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une place pour le faire, pour le fabriquer dans le parcours de ces jeunes à l'école de la deuxième chance ?
Ah oui, alors, tu t'en souviens pas, mais on s'est croisés à Canopé il y a quelques années, voilà. Et ce jour-là, j'ai découvert ce qu'étaient les Fab Labs. Je savais pas du... Enfin, si je savais ce que c'était, mais... Et en fait, depuis, on travaille avec les petits débrouillards sur cette question-là. Donc, ils viennent chez nous animer des Fab Labs éphémères.
Sur le
côté fabrication. Projet, créativité, etc. C'est-à-dire qu'on est parti de ça parce qu'on a des jeunes qui n'ont pas de culture technique. Et puis les petits débrouillards travaillent aussi beaucoup sur la démarche expérimentale. C'est-à-dire je construis une théorie, même simple, je la teste, je vois si ça marche, etc. Donc je démonte, quand je démonte, je fais attention à comment je fais, et après je remonte, voilà. Ce qui conduit, alors ça c'est un exercice classique, l'ordinateur dans la bassine, mais ce qui conduit des jeunes à prendre un ordinateur fixe, à le démonter, à le remettre dans une bassine, à tailler un écran et à poser dessus, et vous avez un ordinateur portable. Alors qu'au début de la semaine, ils ne touchaient pas du tout à un ordinateur. C'est un grand classique a priori, mais moi je suis toujours bluffé. Et puis ils travaillent aussi sur l'impression 3D, enfin, sur beaucoup de choses. Le codage, on a du mal, on n'arrive pas à trouver d'intervenants. C'est compliqué. On a voulu mettre en place un service civique pour se dire on va tenter une expérience à toute petite échelle avec 2-3 jeunes par semaine. On a zéro candidat. Donc, si... Voilà. Mais on va continuer, on ne va pas se désunir, on va continuer à chercher. Voilà. Donc il y a une place pour le faire. Les mini-entreprises, par exemple, souvent, ils fabriquent. Voilà. Cette année, ils ont fabriqué des lampes à partir de palettes. On essaye. Moi, qui ai une formation de cuisinier à la base, je trouve qu'on ne fait pas assez.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, j'appelle Agathe Dirani pour qu'on puisse terminer dans les temps. Vous restez à la tribune. Alors, on aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire que vous auriez pu intervenir en premier, puisque chercheuse sur ces questions de créativité, d'éducation, vous allez nous expliquer. Mais après tout, c'est pas mal non plus de terminer par ça. Peut-être que vous ferez une sorte d'exercice un peu synthétique.
Justement des questions sur l'école de la deuxième chance, mais peut-être qu'on pourra échanger.
Oui, vous pourrez échanger après.
Où est-ce que je suis ? Oui, alors je vais vous faire ma présentation. Ça va peut-être vous paraître déconnectée ou brute de décoffrage ou je ne sais quoi. Mais je vous invite à faire des, liens à, la fin. Voilà. Et juste un petit mot avant de démarrer. Je ne connaissais pas toutes les initiatives qui sont rassemblées aujourd'hui. Et je dois dire que c'est assez passionnant et ça me donnerait presque envie de faire une deuxième thèse sur ces initiatives-là. Mais bon, on va peut-être s'arrêter à une thèse, ça suffit. Voilà, donc je vais vous parler de la créativité des élèves comme objectif du curriculum scolaire. Donc, quels leviers pour développer cette créativité et quels effets peut-on en attendre d'une prise en charge de la créativité dans les parcours de formation ? Alors, quelques mots sur le contexte de la recherche. Bon, vous verrez que la question du territoire n'est pas forcément très présente puisque c'est une enquête que j'ai réalisée sur plusieurs territoires, justement sur trois régions. Mais on pourra après reconnecter avec des questions plus territoriales. Oui, alors le contexte de la recherche, c'est celui d'une rhétorique très présente sur la question de la créativité, développer la créativité des individus pour les aider à s'insérer dans une société incertaine, mouvante, etc. Donc j'ai voulu un petit peu interroger cette rhétorique et me demander concrètement si être créatif aujourd'hui, ça servait, c'était utile, ou enfin, en tout cas si ça conduisait les jeunes à des positions souhaitables dans les parcours d'insertion professionnelle. Je ne vais pas parler de cet aspect-là de ma thèse aujourd'hui, il y a des choses intéressantes, mais je vais parler plutôt de comment on développe sa créativité, via quel parcours, et est-ce que l'école y contribue, d'après les résultats que j'ai. Le contexte, il est aussi marqué par un essor de ce mot, qui est plutôt anglo-saxon au départ, un essor notamment dans les programmes scolaires, avec une notion qui a évolué, qui était d'abord, la créativité, c'est d'abord quelque chose qui était réservé aux enseignements artistiques dans les programmes scolaires, notamment de 2 minutes. On retrouve la créativité, mais uniquement dans les programmes d'art plastique. Et c'est la créativité en tant que ressource personnelle. L'école n'est pas forcément là pour la développer, elle est là pour l'utiliser, la mettre en situation dans les cours d'art plastique. Mais elle apparaît comme une compétence transversale petit à petit, notamment dans la réforme du collège, et également en arrière-plan parmi les compétences mentionnées dans le socle commun de connaissances et de compétences, notamment la deuxième version, celle de 2016. Elle est aussi au cœur de formations émergentes dans le supérieur. Donc en gros, la question de la créativité, elle suscite des enjeux d'efficacité. En gros, est-ce que être plus créatif, ça a des effets sur les parcours d'insertion professionnelle ? Et d'autre part, si elle est prise en charge dans les parcours de formation, est-ce que ça peut, quelque part, contribuer à une forme de justice sociale, puisque ce serait une ressource nécessaire pour s'insérer dans la société ? Alors, de quoi parle-t-on ? J'imagine qu'on parle. Je ne vais pas forcément parler de la même créativité que la créativité du territoire, puisque la créativité du territoire, elle implique plusieurs acteurs, elle s'enracine dans les spécificités d'une région, d'un département, d'une commune. Là, je suis sur la créativité des individus, mais qui est à la base de tout ça, puisqu'on voit bien que vos différentes initiatives sont quand même portées par des individus. Et donc cette créativité, je vais essayer de la définir rapidement. Bon, sachant que mon travail s'inscrit en sciences de l'éducation, j'ai défini la créativité comme une métacompétence qui va mobiliser des différents types de ressources individuelles. C'est comme ça que l'a défini notamment les travaux de Lubart, qui est un psychologue à Paris Descartes et qui a d'ailleurs été reçu ici, je crois. Donc ces ressources individuelles, elles sont cognitives, conatives et émotionnelles. Parmi les compétences cognitives, il y a des savoirs, donc c'est notamment découvrir le monde, avoir des connaissances, de l'expertise sur un sujet, mais ça regroupe aussi des savoir-faire. Et pour être créatif, il faut savoir, par exemple, naviguer entre plusieurs domaines de connaissances. Après, il y a des aspects plus conatifs qui relèvent davantage de l'expression, si on veut faire le lien avec une notion qui est plus sociologique. Et c'est notamment la notion de charisme qui est souvent invoquée. Alors, les travaux de sociologie sur les parcours d'artistes, je pense notamment au travail de Norbert Elias sur la vie de Mozart. C'est vrai qu'il souligne beaucoup des traits d'une personnalité très enthousiaste, qui veut suivre le cours de ses rêves, etc. Donc ça prend aussi une place importante dans cette métacompétence. Et puis des compétences, des aspects émotionnels qui vont également favoriser la mise en action de cette métacompétence. Généralement, c'est une métacompétence qui est mobilisée en plusieurs étapes, et généralement de la définition d'un problème à la proposition d'une solution nouvelle. Donc là, c'est une définition très pragmatique, au sens de la sociologie pragmatique, qui rejoint notamment les travaux de Dewey. Et cette créativité, on la reconnaît à quoi ? À l'originalité et à la nouveauté proposée. Donc j'espère qu'avec ces quelques éléments de définition, vous retrouvez les uns et les autres vos différentes initiatives. Et dans la littérature aussi sur la créativité, ce qu'on retrouve, c'est la place de l'environnement qui doit favoriser la mobilisation de la créativité. Il y a des travaux, notamment en sciences de gestion, qui ont identifié les conditions au sein d'une organisation pour que les individus puissent être créatifs. On n'est pas créatif dans n'importe quel environnement. Il peut y avoir des environnements qui empêchent de mobiliser sa créativité. Je vais essayer de faire vite parce que je pourrais aussi parler longtemps, donc je vais essayer de limiter un peu. Les principales questions de cette recherche, ce dont je vous parlais aujourd'hui, c'était d'abord se demander comment l'école contribue au développement de la créativité. Est-ce que l'école contribue au développement de la créativité des individus que j'ai interrogés? Quel poids les pédagogies de la créativité, et je vais revenir sur ces pédagogies de la créativité, quel poids ont-ils dans l'expérience des espaces éducatifs, à l'école, mais aussi à l'extérieur de l'école, peut-être via le Festival des Jeux de Parthenay, via un accompagnement très rapproché auprès d'une éducatrice spécialisée indépendante. Voilà, donc tout c'est à côté. Donc je vais essayer de voir qu'est-ce qui compte vraiment pour développer la créativité à partir des résultats que j'ai. J'essaierai de vous en dire deux mots. Et enfin, qu'est-ce qu'on voit concernant les inégalités d'accès aux pédagogies de la créativité? Et on verra qu'il y a peut-être certains parcours du système éducatif qui donnent davantage accès aux pédagogies de la créativité que d'autres, et aussi certains profils socio-culturels des élèves qui permettent d'avoir davantage accès à ces dispositifs pédagogiques, à ces pédagogies de la créativité. Voilà, donc j'ai mis les références, si jamais, pour aller plus loin, et le pourquoi, en fait, ces questions, c'est des questions qui sont basées sur des travaux en sciences de l'éducation, en sociologie, principalement. Vous me dites s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si vous voulez m'interrompre en cours de route, il n'y a pas de problème, sinon je continue. Rapidement, je vous dis quelques mots sur le matériau de l'enquête. Moi, j'ai réalisé une enquête par questionnaire auprès de un peu plus de 1500 jeunes. J'ai exploité les réponses de 1551 jeunes exactement. C'est un questionnaire qui a été diffusé par plusieurs acteurs, donc c'était aussi un travail d'équipe et de partenariat quelque part, même si c'était dans le cadre d'une thèse, puisque je me suis appuyée sur des universités, des grandes écoles, des CFA, des lycées professionnels, des missions locales qui ont relayé mon enquête auprès de jeunes, en fait, qui devaient avoir quitter leur formation initiale et réaliser une première insertion sur le marché de l'emploi depuis moins de 10 ans. Et après, le questionnaire va les interroger de manière rétrospective sur tout leur parcours, avec des questions sur leur parcours scolaire, leur parcours donc académique, leur parcours non académique, les activités extrascolaires, etc. Des questions sur la manière dont ils perçoivent leur créativité, la représentation de leur créativité, Je vais y revenir sur la mesure de la créativité et des questions sur les réalisations créatives dans leur parcours, puis des questions sur leur parcours d'insertion professionnelle. Donc en gros, c'est pour la plupart des diplômés qui sont sortis, ou non diplômés, mais qui sont sortis du système éducatif entre 2009 et 2014, qui ont pour la plupart entre 23 et 31 ans, mais avec une grosse majorité de diplômés du supérieur. Voilà, même si il y a quand même un peu plus de 100 jeunes qui ont un niveau inférieur au bac qui ont répondu à l'enquête. Voilà. Bon, c'est aussi lié aux moyens artisanaux de la thèse et au fait que voilà, on peut pas. Enfin, la passation d'un questionnaire auprès des moins diplômés aurait demandé que j'accompagne individuellement les jeunes et c'était pas possible en étant toute seule. Voilà. Donc quelques mots sur la mesure de la créativité dans l'enquête. Alors j'ai utilisé deux approches, notamment une échelle qui est issue de la psychologie cognitive, qui s'intéresse à la créativité des individus avec 16 items en 4 modalités. C'est une échelle de Likert. C'est pratique parce qu'avec ce type d'outil, on peut faire plein de choses intéressantes, plein d'analyses statistiques intéressantes derrière. Je vous ai mis quelques exemples d'items ici. On voit que c'est des items qui correspondent aux critères de la créativité que j'ai définie avant, à savoir la capacité à être original, à proposer des idées, à trouver des solutions innovantes, telles que les individus se la représentent. Donc, quelques exemples d'items. Il m'arrive d'exprimer des idées qui peuvent paraître étranges aux autres. J'ai des idées d'invention qui permettraient d'améliorer les choses. Dans une situation d'impasse, je m'estime tout à fait capable d'apporter de nouvelles idées. J'aime avoir une marge de manœuvre dans ce que je fais. Alors, ça serait intéressant de diffuser, enfin, pas forcément mon questionnaire, bon, l'enquête est terminée, etc., mais de poser ces questions à des jeunes, notamment d'école de la deuxième chance, pour voir les différences avec peut-être d'autres jeunes. Parce que j'imagine que la confiance en soi, l'estime de soi, etc., ça joue aussi dans les réponses et la représentation qu'on peut avoir sur ce type de potentiel. Oui. Non, c'est la personne, c'est auto-reporté, avec tous les biais que ça peut avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des différences inter-individuelles. Et donc, ça dit des choses quand même. Mais ce que ça dit, c'est peut-être aussi des différences d'estime de soi et de confiance en soi, et pas uniquement de créativité. Mais pour objectiver un petit peu cette mesure auto-reportée, j'ai inclus une question qui était plus objective sur les réalisations créatives dans le parcours, et donc j'ai demandé aux personnes qui répondaient au questionnaire s'ils avaient pu participer à des réalisations créatives dans leur parcours. Et donc là, j'ai toute une panoplie de réalisations créatives, j'y reviendrai après un petit peu. Et là, c'est une approche un peu plus anthropologique de la créativité. Et il se trouve qu'il y a un lien entre la mesure auto-reportée avec un score de créativité et cette question plus objective sur les réalisations créatives, puisque le score de créativité que j'ai calculé après était bien plus élevé parmi ceux qui étaient en mesure de citer une réalisation créative par rapport aux autres. Donc il y a quand même un lien, même si il y a des biais forcément dans la mesure auto-reportée de ce potentiel.
Est-ce qu'il y a une dépréciation entre l'image de la capacité créative que la personne a d'elle-même et sa réalisation derrière?
Ah bah, ça,
je
ne
sais plus comment ça s'appelle, il y a un effet du nom de sociologue où quand on interroge des gens sur un diplôme, sur un examen par exemple, les meilleurs se sous-évaluent et les moins bons se surévaluent.
Alors ce serait intéressant de regarder ça, je ne l'ai pas regardé. Mais en fait, pour le faire, il faudrait être capable d'expertiser les réalisations créatives. Et ça, je ne l'ai pas fait, parce que c'était difficile, je ne les ai pas vues, etc. Donc là aussi, c'est compliqué. Ouais, mais ça serait intéressant, effectivement, d'appréhender ça. Voilà, donc moi, je ne les ai pas expertisées dans les réalisations créatives. Je les ai classées par domaine, par contexte de réalisation, etc. Mais je ne les ai pas expertisées. D'autres le font, et notamment, je crois que l'équipe autour de Todd Lubart s'intéresse notamment à l'expertise des réalisations créatives. Voilà. Alors, bon, un tableau un petit peu aride, mais pour dire des choses assez simples, finalement, ce qu'on voit à partir des données collectées, et là, à partir d'un échantillon d'un peu plus de 1000 répondants, C'est que, en gros, les différentes caractéristiques relatives à l'espace scolaire, elles n'ont pas d'effet sur le score de créativité des individus. Et en fait, ça, c'est une analyse à l'aide de modèles emboîtés, des modèles de régression emboîtés. Bon, la régression, c'est quelque chose d'assez basique dès qu'on fait des statistiques. C'est pour essayer de capter l'effet de certaines caractéristiques sur une variable donnée. Ici, la variable donnée, c'est le score de créativité. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a surtout deux espaces qui contribuent à expliquer le score de créativité. C'est l'espace extrascolaire et l'espace professionnel. Mais du coup, on peut se dire que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. S'il faut être créatif pour accéder à l'emploi et que c'est l'emploi qui développe la créativité, il faut peut-être considérer cette question et discuter avec les employeurs de cette question-là. Voilà, en gros. Donc, en gros, ça voudrait dire que ce n'est pas l'espace scolaire qui fait la différence. Mais on va aller voir après de plus près que les variations en termes de pédagogie peuvent quand même induire des différences au sein de l'espace scolaire aussi. Voilà. Est-ce que... Bon, sinon, je passe rapidement sur ce tableau, je pourrais entrer dans les détails, mais comme on n'a pas énormément de temps, je m'arrête là. Si vous avez des questions, on pourra y revenir. Ce qu'on voit quand même, toujours quand on analyse les caractéristiques qui ont un effet sur le score de créativité, qui est un score cohérent, qui a été validé, etc. On a beaucoup travaillé sur ce score. Enfin, vous pouvez vous dire que ce score, comme ça, est sorti un peu du chapeau, mais j'ai pas mal travaillé sur la construction du score. Donc, en gros, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui se disent les plus créatifs, c'est ceux qui ont effectué une reprise d'études dans leur parcours. Et ceux qui, dans le supérieur, ont été inscrits dans une école d'ingénieurs. Ils sont souvent diplômés d'une école d'ingénieurs. Donc là, ça commence à poser quelques questions. On voit qu'il y a des parcours qui induisent une plus forte représentation de la créativité. C'est pas très étonnant, puisqu'il y a aussi une rhétorique, et pas simplement une rhétorique, une réalité au sein des écoles d'ingénieurs. Je pense qu'on travaille beaucoup l'autonomie, la prise d'initiative, et notamment avec des compétences techniques derrière. Voilà. Et puis la reprise d'études, on peut se demander si c'est la reprise d'études qui est à l'origine de la créativité, ou si c'est peut-être des individus qui sont déjà plus créatifs, qui ont aussi repris leurs études parce qu'ils sont plus aventuriers, ils ont le goût du risque davantage, ou qui sont peut-être aussi plus épaulés par leur environnement pour pouvoir se permettre une reprise d'études. Bon. Donc la question reste entière, mais déjà ça permet de voir voilà, où se trouve la différence. Les plus créatifs sont ceux qui ont ces deux caractéristiques. Alors si on entre un peu plus dans les détails, et si on regarde l'effet des pédagogies de la créativité sur le score de la créativité, on a des choses qui peuvent être intéressantes. Alors à partir d'une revue de littérature, notamment anglo-saxonne, sur les pédagogies de la créativité, avec des travaux notamment d'Anna Kraft, mais aussi des travaux dans le contexte français, avec les travaux de Taddei notamment, qui soulignent l'intérêt de certains facteurs de développement de la créativité dans le contexte scolaire. Je ne vais pas revenir sur la revue de littérature, mais bref, cette revue de littérature qu'on a faite en amont nous a permis d'établir une série de pédagogie de la créativité, de facteurs de développement de la créativité, et on a pu confronter à nos résultats l'efficacité de ces facteurs de développement de la créativité. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, d'après les données empiriques, il y a certains facteurs qui n'ont pas d'effet sur le potentiel créatif, alors que d'autres en ont. Et dans le contexte scolaire, les facteurs de développement qui ont un effet, c'est la résolution de problèmes réels, le recours à l'imagination, la concrétisation d'une idée, la production de nouveaux objets et la pluridisciplinarité, qu'on retrouve notamment dans les EPI, nouveaux objets qu'on va retrouver aussi de diverses manières. Alors, ce qui est un petit peu décevant, c'est que le travail d'équipe n'est pas apparu comme un facteur de développement de la créativité. La production de nouveaux outils non plus, elle aurait un effet neutre. et la rencontre de nouveaux univers aussi. Alors là, je me dis que peut-être que mes données ne sont pas complètement, complètement irréprochables, parce que j'ose croire que la rencontre de nouveaux univers contribue à développer ce potentiel.
Moi, j'en suis persuadée.
Voilà. Bon, donc, c'est pour ça qu'il faudra faire d'autres études sur la question et ne pas la laisser de côté.
C'est aussi parce que la rencontre de nouveaux univers, elle amène à la résolution de problèmes réels.
Oui, il y a peut-être des recoupements, voilà. Oui, c'est peut-être lié à la formulation des questions, effectivement, oui. Enfin, ceci dit, je corrige, la rencontre de nouveaux univers, elle n'a pas d'effet sur le développement de la créativité dans le contexte scolaire. En fait, c'est peut-être tout simplement que le contexte scolaire aujourd'hui en France ne permet pas beaucoup la rencontre de nouveaux univers. En revanche, il y a deux aspects qu'on retrouve, deux facteurs de développement de la créativité qui ont un effet positif dans le contexte extrascolaire et qui n'en ont pas dans le contexte scolaire, et c'est justement la production de nouveaux outils et la rencontre de nouveaux univers. Donc voilà principalement ce que je voulais dire sur ça. Et ce qu'on voit aussi, je vais en rester là pour ça. Voilà. Donc troisième temps et troisième grande question que j'avais présentée, c'est la question de qui concrètement a accès aux pédagogies de la créativité, le développement de la créativité aujourd'hui, en l'état actuel, enfin en tout cas dans le système éducatif qu'ont connu les personnes que j'ai interrogées, pour qui est-ce qu'ils développent la créativité? Alors, ce qu'on voit, c'est que le niveau d'exposition aux pédagogies de la créativité que j'ai présenté comme ayant un effet positif précédemment, donc les différents facteurs, il y a trois caractéristiques socio-économiques, socio-démographiques qui ont un effet sur ce niveau d'exposition. Ça va être le niveau d'études de la mère. On voit que ceux qui sont le plus exposés à ces pédagogies, c'est les jeunes qui ont une mère dont le niveau d'études est au moins équivalent à la licence. C'est des jeunes dont la mère est née en France et non à l'étranger. Et c'est des jeunes qui pratiquent une langue étrangère à la maison. Donc on voit que il y a un effet, très certainement, du capital à la fois social et culturel des jeunes, et avec un capital culturel qui joue un peu dans les deux sens, puisque le fait d'avoir une mère née à l'étranger, finalement, ça recoupe certainement aussi des caractéristiques sociales. Et c'est pour ça que ça joue certainement en sens inverse de la pratique d'une langue étrangère à la maison, même si ça peut paraître étonnant. Toujours pour continuer sur cette question, le développement de la créativité pour qui aujourd'hui dans le système, au sein du système éducatif actuel, même si c'est une image forcément générale et forcément déformée qui ne va pas représenter tout le monde, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui sont les plus exposés aux pédagogies de la créativité, qui ont un effet positif sur le potentiel créatif que j'ai présenté juste avant, ça va être principalement des jeunes qui ont été scolarisés dans le privé au lycée. Donc voilà, ça peut-être que ça valide aussi des expérimentations du type le collège de Savio. Peut-être que ce type d'innovation laisse un peu plus de marge et permet l'introduction de pédagogie qui développe davantage la créativité. C'est une des hypothèses qu'on peut faire, on pourra en faire d'autres. Ce qui permet d'être davantage exposé aux pédagogies de la créativité, c'est aussi d'avoir effectué une mobilité internationale. Donc ça voudrait dire en gros que c'est plutôt les systèmes éducatifs à l'étranger qui ont développé la créativité, qui ont permis aux répondants d'être exposés aux pédagogies de la créativité. Donc ça voudrait signaler que la France est un peu en retrait d'autres pays. Il faudra aller creuser un petit peu. Et enfin, ce qu'on voit, c'est que le fait d'avoir été, d'avoir suivi des études d'art dans le supérieur fait qu'on a aussi été davantage en contact avec les pédagogies de la créativité. Bon, c'est rien d'étonnant, puisqu'il y a des travaux sur ça, et le curriculum des écoles d'art fait une place entière à la créativité. Mais voilà. Donc ça permet de voir qu'il y a des... C'est comme s'il y avait des sous-systèmes éducatifs auxquels accédaient certains individus et qui permettaient davantage de développer ce potentiel. Donc ça je pense que ça peut nous questionner. Alors pour rappeler les principaux résultats, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait donc un effet limité de la socialisation scolaire par rapport à d'autres espaces de socialisation sur le potentiel créatif, mais une valeur ajoutée de la reprise d'études et des écoles d'ingénieurs. On a vu qu'il y avait surtout quelques facteurs qui comptaient, quelques pédagogies de la créativité qui comptaient dans le contexte scolaire. C'est la résolution de problèmes réels, le recours à l'imagination, la concrétisation d'une idée, la production de nouveaux objets et la pluridisciplinarité. Et on voit que l'accès aux pédagogies de la créativité, il est conditionné par le capital culturel et social des familles, le statut des établissements de scolarisation dans le secondaire et le domaine d'études dans le supérieur. Voilà, donc c'est des pistes de résultats qui pourraient être discutées, contestées, nuancées, etc., bien évidemment, qui reposent sur un certain matériau empirique que j'ai essayé de vous présenter un petit peu rapidement. Mais voilà, ça invite à se questionner après plus concrètement au niveau de différents territoires, comment l'institution scolaire peut prendre en charge ce potentiel. Est-ce que c'est à elle de le faire? Est-ce qu'elle doit l'externaliser? Si oui, comment? Avec quels acteurs? Sur quel territoire? Etc. Bon, voilà, j'espère que ça fait écho à vos initiatives respectives. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Merci, Agathe. En tous les cas, ça fait écho à des éléments de recherche aussi que nous brassons un petit peu dans le cadre de la démarche plus large de créativité territoire, pas seulement celle d'aujourd'hui. Je pense aux travaux d'Yvette Lazéry à Aix-en-Provence, avec qui je pense qu'il serait intéressant que vous soyez en relation, mais on fera tout pour, puisqu'elle organise un séminaire une fois par an depuis 3 ans maintenant sur cette question de la créativité territoriale. Je pense aussi aux indicateurs de Florida, au fond, puisque les fameux 3 T de Richard Florida, T comme technologie, T comme talent et T comme tolérance. Et tolérance, c'est la présence d'étrangers dans les quartiers, la technologie. Alors, il en arrive à trouver des indicateurs assez étonnants, notamment le fameux indicateur, je ne sais plus comment on appelle ça, le canari rose, ou je ne sais plus comment s'appelle cet indicateur un peu... Bon, c'est américain, hein, c'est-à-dire le taux d'homosexuels dans un quartier. Voilà. Alors, il définit ça comme ça, parce que c'est un peu comme dans les mines, il y avait des fois des... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà,
dans les mines pour le grisou.
Ouais, ça doit être ça, peut-être un peu cette idée-là, voilà. J'en sais trop rien. Enfin, en tous les cas, voilà, ça fait écho à des choses comme ça, et je pense que là, il y a effectivement quelques relations à bâtir, et on en reparlera peut-être après. Mais bon, je vais laisser la place aussi où il y a des questions, s'il y en a. Peut-être êtes-vous tous épuisés, parce que, bon, il est 17h20, donc... vous avez le micro. Si.
Moi, je trouve qu'en fait, vos travaux sont une forme de confirmation de choses qu'on avait mises en œuvre empiriquement, sur notamment, quand vous parlez de la résolution de problèmes réels, c'est de faire travailler les stagiaires sur des projets, sur des réalisations, etc., sur la pluridisciplinarité, c'est ce que disait M. Labrousse tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, et ça fait écho aussi au dernier développement des sciences cognitives, qui montre que quand on entremêle les apprentissages, on a beaucoup plus de résultats que quand on apprend une seule chose à la fois, contrairement à toutes nos idées reçues. Enfin bref. Et je trouve intéressant, alors après, c'est toujours la question, je trouve, mais de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire que j'avais noté quand vous disiez reprise d'études, école d'ingénieurs, induction ou corrélation, c'est-à-dire que à la fois pour entrer en école d'ingénieurs, il faut avoir résolu un certain nombre de problèmes dans sa vie avant et s'être pas mal battu sur un certain nombre de choses. Et donc c'est presque une différenciation évolutive pour pouvoir être ingénieur. Et je pense qu'effectivement, quelqu'un qui reprend des études, du coup, c'est quelqu'un aussi qui, dans sa vie professionnelle, a avancé. Et ça renvoie au tableau que vous aviez sur l'effet du monde professionnel sur le développement de la créativité. Et je pense que du coup, comme il a des compétences en créativité, bah, ça lui donne aussi envie d'évoluer professionnellement, surtout s'il n'a pas... un niveau de départ qui correspond finalement à ce qu'il pourrait atteindre ou ce qu'il exerce dans l'entreprise.
qui reprend des études, c'est quelqu'un qui a fait un choix et qui sait faire des choix. Mmh. Et alors que quelqu'un qui va suivre un cursus même brillant est souvent quelqu'un qui suit une voie qu'on lui a tracée.
Mmh. C'est vrai aussi. D'autres remarques ? Pardon ?
Je suis un incorrigible bavard. Alors, je suis d'accord avec Jean-Jacques Latouille. Je suis d'accord avec Monsieur Meunier par rapport au, et puis avec vous aussi sur les écoles d'ingénieurs. J'ai travaillé quelque temps comme responsable du bureau de la formation et des programmes à l'École nationale des travaux publics de l'État à Lyon, avant Vaux-en-Velin, en collaboration d'ailleurs sur le même campus avec l'école d'architecture. Et par rapport à ce que vous disiez sur la créativité qui, dans les écoles d'ingénieurs ou du moins des jeunes ingénieurs, je me souviens d'une discussion avec un DRH de chez Bouygues à qui je disais, mais je ne comprends pas, on te sort des ingénieurs qui ont fait 2 années de classe prépa, qui ont fait 3 années d'études et tu les remets entre 8 et 24 mois en formation dans ta boîte. Alors là, il y avait effectivement. Alors à l'époque, on ne discutait pas, lui et moi, de créativité, c'était des concepts qui nous étaient inconnus, disons-le. Mais voilà, ce qu'il me disait, tu comprends, tes ingénieurs, moi je sais qu'ils savent travailler, ils ont subi en classe prépa un régime tel qu'ils n'ont pas peur du boulot. Par contre, alors, il disait, ils ne sont pas très imaginatifs parce qu'ils ont été éduqués dans la règle du modèle. Alors j'entends bien le discours de l'élève ingénieur parce que quand il passe, je me souviens d'une séance particulière, les ingénieurs de l'ENTPE, la première année, ils ont à bâtir un projet qu'ils vont mener en groupe en plus pendant toute l'année sous la tutelle de maître avéré. Et puis ils ont par exemple une journée avec leurs collègues de l'école d'architecture qui s'appelle la journée des ponts, où il faut qu'ils construisent en binôme d'ingénieurs, enfin d'élèves ingénieurs et d'élèves architectes, un pont qu'on va ensuite martyriser en mettant des poids dessus, et si le pont ne résiste pas ou s'il résiste, ils seront plus ou moins bien appréciés. Donc il y a bien une dimension de créativité. Pour autant, est-ce que c'est celle qui est attendue par l'entreprise derrière? C'est un autre problème. Et ça me rejoint à un enseignement que je donnais ici à l'IPAG, à l'IAE il y a quelques années, sur la notion d'innovation dans les systèmes éducatifs. Vous savez que l'innovation, c'est quand même quelque chose dont on nous parle beaucoup, il faut être innovant et tout. Et je me demande, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que je racontais aux gens, l'innovation, c'est quand même un concept essentiellement du monde économique, hein, avec Schumpeter en 1905, qui a été repris par les étudié par les sociologues comme Norbert Alter, Saint-Saulieu, etc. Mais c'est à l'origine pas un concept de la psychologie et pas un concept des sciences de l'éducation. Et donc, au vu de ce que vous nous avez dit, madame, je me demande si on peut espérer un jour avoir, comme les ministres le souhaiteraient, de l'innovation dans un système éducatif qui met tellement peu en avant la créativité.
Non, mais ça peut être un regard direct.
Ouais. La question de l'innovation au sein du système éducatif, il me semble qu'elle est assez différente puisqu'elle repose sur des dynamiques assez particulières. Je sais qu'il y a des initiatives qui sont portées comme l'Expéritech, mais qui sont restées assez larvaires au sein du système éducatif. Après, je crois que là, ça fait écho plutôt à des questions de sociologie des organisations et sociologie des bureaucraties qui renvoient à d'autres enjeux que mon étude. Mais voilà. Oui, mais du coup, ça veut dire que les innovations restent externes, en fait. Si c'est...
Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une étude sur les notes des inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Voilà, qui effectivement montrait qu'ils étaient extrêmement défavorables à l'innovation. Alors il y a le cas de Céline Alvarez qui a été mis en exergue, mais indépendamment de cet épiphénomène médiatique, indépendamment de l'épiphénomène médiatique, il y a quand même dans l'institution un espèce de rappel à la règle et à la norme qui permet mal l'innovation, me semble-t-il.
Oui, par rapport à ce que disait M. Labrousse, l'innovation et la créativité au sein d'une institution comme l'éducation nationale, c'est forcément quelque chose de très compliqué, puisque l'éducation nationale est restée quand même sur des canons qui sont ceux du 19e siècle, qui étaient une éducation uniformisatrice. Mmh. Il était, voilà, quand l'inspecteur général ou le ministre disait « je sais à telle heure ce qui se passe dans toutes les écoles de France », comprenez qu'à partir de là, si on ne change pas ce précepte de base, on est quand même un petit peu coincé. Je vais vous dire quand même, je ne vais pas vous raconter ma vie, hein, parce qu'on y serait encore dans 3 ou 4 jours. Mais vous avez compris que j'ai un parcours un peu particulier, professionnel. Je suis rentré, je suis sorti de l'éducation nationale. J'y suis rentré par une toute petite porte qui n'était pas la meilleure à l'époque, celle du médico-éducatif. Et un jour où j'étais en réunion à Paris justement avec des inspecteurs généraux, et je leur dis, c'est la dernière réunion à laquelle j'assiste avec vous, puisque je pars travailler dans une école d'ingénieurs. Là, l'inspecteur général me dit, mais comment dans une école d'ingénieurs? Donc je lui trace en 2 mots mon curriculum vitae, et il me dit, alors que ça faisait déjà longtemps que j'étais dans la maison, il me dit, mais alors comment se fait-il que vous ayez pu être inspecteur?
Deux questions encore?
Oui, j'ai l'impression que j'ai envie de défendre cette très imparfaite maison qu'est l'éducation nationale, mais par la base, parce que moi, je ne désire pas grimper les échelons, et c'est un choix personnel, je préfère travailler à la base. Et vous avez dit quand même que le niveau d'études de la mère était fondamental. Bah, le niveau d'études, c'est quand même l'éducation nationale, donc il faut le prendre en compte. Et évidemment, c'est énorme, c'est une maison énorme, c'est une maison imparfaite, mais c'est également une maison qui sait être créative dans son quotidien, et ce quotidien échappe à toutes les réformes, à toutes les modélisations que peuvent faire les inspecteurs, et heureusement, et j'avais envie de le dire quand même un petit peu.
Et d'ailleurs, il existe une journée des innovations pédagogiques, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, qui sont un peu en dehors des choses, mais qui existent.
Oui, moi je peux aller qu'abonder dans votre sens. En fait, le pouvoir de nuisance de la hiérarchie, il est très très limité. Une fois qu'on est dans sa classe, ben, ma foi, on fait un peu, enfin, on a une très très grande liberté. Une fois qu'on prend conscience de cette liberté, on peut faire beaucoup beaucoup de choses, quoi. Et parmi les choses qui rendent l'innovation intéressante, c'est notamment l'ouverture de la classe sur l'extérieur. Alors ça a déjà été évoqué, hein, mais c'est dès qu'on fait venir quelqu'un, dès qu'on crée des partenariats, etc., ça multiplie les choses. Il y a un enseignement toutefois qui existe, hein, dont le cœur c'est bien l'innovation et la créativité. Il s'appelle création et innovation technologique. Un enseignement d'exploration en seconde, alors qui se fait pas partout, qui se fait avec divers bonheurs, mais qui est aussi une opportunité de d'introduire justement de la créativité dès la seconde. Et puis enfin, je dirais, c'est peut-être une bonne chose que l'institution ne s'empare pas complètement de cette question de la créativité, parce qu'elle a un tel pouvoir de lessivage sémantique et de voilà. Donc moi, je suis assez ravi en fait qu'on ait à la fois la liberté de pouvoir faire un tas de choses et que bah, finalement, ça ne dérange pas grand monde. Si, je voudrais juste dire une chose, si j'ai bien compris, en fait, le parcours idéal pour être créatif, c'est de faire des écoles d'art, reprendre des études pour une école d'ingénieur, c'est ça?
D'avoir une mère qui fait des études, oui, qui soit née en France, et de parler le russe à la maison.
D'ailleurs, on peut juste témoigner dans les différentes tables rondes que nous organisons, à chaque fois, pas toujours, quand le thème le permet, mais on a toujours eu un représentant de l'éducation nationale à la base qui faisait des choses tout à fait extraordinaires. Je pense à cet instituteur des Deux-Sèvres qui fait de la tweet dictée, à ce professeur de sciences de Civray qui conduit ses élèves dans le cadre d'un concours qui s'appelle « C'est génial ». Enfin, cet enseignant du lycée à Châtellerault qui a fait un travail avec les vitrines des commerces qui étaient désaffectées, ses étudiants. Enfin, il y a toujours, effectivement, mais à la base, on trouve toujours des expériences. La difficulté, c'est parfois, il faut quand même prendre un peu de temps pour les chercher. Voilà. Alors qu'on aurait un petit réseau, je dirais, de bonnes pratiques ou de bonnes initiatives, ça serait intéressant. Ah, pardon. Pierre, peut-être, non ? Ça va ? Écoutez, il est 17h30. De toute façon, on pouvait continuer à échanger un peu. Je voulais remercier tous les participants qui ont bien voulu accepter d'intervenir à cette table ronde et puis également ceux qui y ont participé. Vous avez une feuille avec tous les rendez-vous. Se rajoute quand même juste une chose, je voulais vous le dire, mais on l'a sur l'agenda. On fait des visites d'entreprise, notamment surtout sur Châtellerault, parce qu'on a un chef d'entreprise particulièrement ouvert, mais... L'autre jour, nous étions à Cognac, donc voilà, on essaie d'essaimer aussi ces démarches. Et puis, je vous rappelle nos journées d'automne, les 18, 19 et 20 octobre, alors, qui sont les sixièmes du genre. Et puis, les tables rondes continuent. Voilà. Merci en tous les cas, et bonne soirée, et bon week-end surtout maintenant, puisque nous sommes vendredi soir.
Merci à vous.
Merci.